Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 14h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et n'hésitez pas à les contacter pour toute solution VPC. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode spécial de Comic City consacré au film Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Vous m'avez sans doute reconnu, je suis Marty qui pour la première fois se lance dans la présentation et aujourd'hui à mes côtés vous pourrez reconnaître d'ici quelques secondes la voix suave de notre cher Jonath du Podcatch.
Salut à tous.
Alors Jonath, comment ça va?
Ça va très bien Marty, et toi?
Oui, ça va. Ben, je reviens, comme toi, tu le sais déjà, du cinéma, vu que j'ai vu Les Gardiens il y a quoi, 2-3 heures de ça, et donc c'est tout frais, tout fringant que j'arrive pour enregistrer cette émission. Toi, je crois que tu l'as vu il y a un peu plus longtemps.
Ouais, j'ai dû le voir à peu près dans les jours qui ont suivi sa sortie. Je pense que j'ai dû le voir le vendredi ou le samedi soir de la sortie du film, donc il y a deux semaines et demie, je dirais.
Voilà, donc pour toi ce sera peut-être un peu moins frais, mais en tout cas je suis sûr que ton avis, lui, sera très construit et que les choses que tu as aimées ou les choses que tu vas reprocher au film sont sans doute très bien ancrées dans ta mémoire. Alors juste pour précision, tu l'as vu en VO ou en VF?
Je l'ai vu en VF, malheureusement.
Ah, pareil, je l'ai vu en VF normal, donc pas de 3D ou je ne sais quoi d'autre, je sais pas pour toi.
Non, pas de 3D, je crois que, enfin le mien j'ai eu la chance, ouais, c'était en version numérique, la 3D j'évite de plus en plus, hein, vraiment.
Oui, moi pareil, bon la VF j'ai pas eu le choix parce qu'il y avait que de la VF là où j'allais pour cet horaire là, et du coup pour moi c'est totalement différent de mon visionnage du premier, puisque le premier Gardien je l'avais vu à New York lorsque j'y avais été en vacances il y a 3 ans. Donc grande première pour moi aller voir un film en VO sans sous-titres, mais bon comme c'est un blockbuster où il parle anglais assez simplifié on va dire, prévu pour l'exportation, donc c'était pas très compliqué de comprendre, et à l'époque je l'avais vu en 3D IMAX il me semble, du coup pour moi totalement un visionnage totalement différent. D'ailleurs je n'ai jamais revu Les Gardiens premiers du nom, que j'avais pourtant beaucoup aimé. Et pour toi le premier Gardien alors, t'avais aimé ou pas?
Alors c'est partagé, parce que je dirais que en tant que film lui-même, faut reconnaître qu'il apportait un certain vent de fraîcheur, quelque chose qu'on avait rarement vu, surtout dans l'univers des films de super-héros. Il y avait un peu effectivement un côté frais, un côté sympathique avec la bande son qui faisait beaucoup. Mais ceci dit, en tant que je dirais adaptation des Gardiens de la Galaxie, ça m'avait fortement déplu, notamment la manière de traiter le personnage de Star-Lord, qui en était un peu réduit à un espèce de comique. Et c'est vrai que bon, on va
Star-Lord
y revenir.
Qui devenait plus Chris Pratt que Chris Pratt ne devenait Star-Lord en fait.
C'est ça. Et
si vous avez vu l'excellente série Parks and Recreation qui a fait connaître Chris Pratt, vous verrez qu'il y a quand même quelques similitudes entre son sympathique personnage qui jouait dans cette série mais qui était un peu idiot et Star-Lord. D'ailleurs, pour l'anecdote, enfin ça c'est quelque chose qui est très connu, mais à la base, lorsque Chris Pratt a passé le casting pour Gardien de la Galaxie, Parks and Recreation n'était pas encore terminée, elle était sur la fin, et le personnage de Chris Pratt était un peu rondouillard, et du coup il s'est préparé physiquement pour ce rôle qu'il voulait à tout prix.
Ouais, et ça pour le coup, effectivement, il remplit bien le costume, il est très athlétique, ça y a pas de problème, c'est juste que alors c'est peut-être quelque chose qui va revenir assez souvent dans notre podcast et dans notre appréciation du film, c'est l'itération des gardiens dans les comics version Hamnet et Lanning. dans vraiment ce Marvel Cosmic Universe qui respirait l'épique, hein, globalement, c'était vraiment.
Ah, c'était Star Wars puissance 10 même.
Voilà, c'est quand même l'une des meilleures choses qu'on ait lues, tout éditeur confondu, ces 15-20 dernières années. Et le problème, c'est que quand on voit Gardien Galaxy, le premier film, certes, le film en lui-même apporte un vent de fraîcheur et assez intéressant, mais on sent bien que ces gardiens-là qu'on a aimés dans les comics, et qui sont pour moi la meilleure itération, on n'y aura pas droit. Et c'est ça qui m'a laissé un amer goût dans la bouche, et ce goût-là ne s'est pas atténué sur le volume 2, au contraire, il a augmenté.
Ah bon, bah alors vous l'aurez compris, Jonathan va être très mitigé sur le Gardien de la Galaxie volume 2, alors que
non,
moi
mais
j'ai bien aimé.
Je rassure les auditeurs, je ne trollerai pas, de toute façon les gens savent que ce n'est pas mon genre de troller, je suis toujours très objectif, il n'y a pas de problème.
De toute façon, alors je vais remuer le couteau qu'on remue depuis, ça fait quoi, 6 ans maintenant dans la plaie, mais on a tous été tellement déçus par Green Lantern que n'importe quel film de super-héros cosmique qui est meilleur trouvera toujours grâce à nos yeux aujourd'hui. Alors, si j'évoque ce souvenir douloureux, c'est pas uniquement pour troller, mais tout simplement parce que Gardien a compris quelque chose que n'avaient pas compris les gens qui avaient fait Green Lantern à l'époque, c'est que la Terre, il faut s'en tenir éloigné. On commence sur Terre pendant 2 minutes, et puis on se casse et on n'y revient plus. Ça, ils l'ont bien compris dans Les Gardiens de la Galaxie.
Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'attaquer comme ça lâchement Green Lantern. C'est un merveilleux film, incarné merveilleusement bien par Blake Lively, en brune de surcroît. Tu n'as pas le droit. Tu n'as juste pas le droit.
Écoute, hein, en tout cas, Blake Lively et Ryan Reynolds, quoi qu'on pense du film, peuvent être bien contents de l'avoir fait, puisque c'est depuis ce film qu'ils sont en couple, même s'ils ne sont pas mariés. Mais enfin bon, on ne va pas faire du gossip, on va rester dans les étoiles.
Ben, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un podcast Gossip City, hein, un jour, moi, très
oui,
intéressé
sur, alors justement, le régime fait par Chris Pratt. D'ailleurs, alors, je me perds encore une petite parenthèse, moi ça me fait toujours marrer quand on voit alors Chris Pratt ici, ou alors quand on voit par exemple Hugh Jackman lorsqu'il joue Logan, quand on voit à côté la préparation physique qu'il faut pour avoir le physique qu'il a dans le film, c'est tous les jours je sais pas combien d'heures de footing, d'haltères et un régime très draconien. Et on voit que les personnages qu'ils incarnent dans les films ne font jamais de sport, picolent, bouffent, font n'importe quoi. Ça me fait toujours un peu rigoler. Mais bon, c'est la magie du cinéma, n'est-ce pas? Alors, on va revenir plus en détail sur les gardiens. Alors donc, on est ici dans la suite du gardien premier du nom. On commence tout de suite après, enfin quelques mois ou plus tard. On a une petite indication temporelle, puisque le film s'ouvre sur un flashback comme le premier dans les années 80. Sauf qu'ici, on n'est pas à la mort de la mère de Peter Quill qui est arrivée à la fin des années 80, mais on est en 1980 pile, où on suit donc la mère de Peter à nouveau, mais cette fois accompagnée d'un autre personnage masculin, qui se révèle être le père de Peter. Puis on va faire un bond de 34 ans dans le futur pour retrouver nos gardiens. Ce qui d'ailleurs nous fait en mathématiques, donc on est dans 2014, et vu que le premier gardien est sorti en 2014, on peut se dire que ce second volume se passe quelques mois ou peut-être un an après. En tout cas, on sent que de l'eau a un peu coulé sous les ponts, puisque dans cette scène d'ouverture, on voit que les personnages ont du répondant entre eux et qu'une véritable symbiose, j'ai envie de dire, ou une relation tout du moins est établie. Alors, j'ai envie qu'on... Est-ce que ça te dirait qu'on s'attarde un petit peu sur cette scène d'ouverture des gardiens ou pas? Parce que moi, elle m'a beaucoup plu.
Oui, j'avoue que dans les rares choses qui m'ont plu dans ce film, la scène d'ouverture est effectivement... Alors c'est une scène classique, hein, on va dire, de blockbuster, mais je trouve qu'elle est bien réussie, comme tu dis, dans le côté, on sent que de l'eau a coulé sous les ponts, et effectivement, chaque membre des gardiens a trouvé plus ou moins son rôle, on sent qu'il y a du travail d'équipe, on sent aussi qu'il y a une certaine
justement
avancée.
Justement, qu'il y a un travail d'équipe qui se court-circuite au bout d'un moment.
Oui, c'est vrai que bon, on va dire qu'il y a une certaine tête brûlée qui n'en fait qu'à sa tête, hein, toute verte d'ailleurs, mais bon.
Dès le début, on comprend qu'on est dans une famille dysfonctionnelle, parce que finalement, le film, ça parle de ça, ça parle de la famille, et là, le tableau est vite peint.
Ouais. Et puis aussi, bon, on sent que au niveau matériel, bon, il y a une certaine et une certaine progression, quoi. On sent qu'ils sont quand même bien équipés, quoi.
Ils sont bien équipés. Leur réputation n'est plus à faire, car ils doivent défendre une planète de l'arrivée d'une créature extradimensionnelle qui veut bouffer les batteries de cette planète.
Et d'ailleurs, alors peut-être que toi tu l'as compris, mais est-ce qu'ils sont recrutés, enfin est-ce qu'ils sont payés pour ça, ou est-ce que c'est juste, ils se comportent juste comme une police, enfin comme des gendarmes de l'univers qui
Ah
viennent
oui,
régler le problème?
ils sont payés vu que alors on prévient tout de suite, on vient de le dire, on va spoiler, hein, on va pas
Oui,
s'empêcher de
comme des
raconter
gros
l'intrigue.
sagouins, hein, ouais.
Voilà, comme toujours, on oublie de le dire dès le début. Et donc oui, ici leur but c'est de récupérer Nebula, donc c'est ça leur prix. D'où le fait aussi que Rocket se permet de se prendre un petit bakchiche en attrapant quelques batteries. Sauf que on est sur une planète d'eugéniste, hein, il faut le dire, une planète donc de créatures d'êtres humains dorés qui se reproduit uniquement par sélection génétique.
Moi, je les ai trouvés très
Et
bien, ces gens-là.
oui, bon, je me doutais que ça te plaisait. J'ai pensé à toi. Non seulement je savais qu'on allait faire le podcast ensemble, je me suis dit, ah, à mon avis, là, si ça va plaire. Je comprends pas pourquoi Jonathan m'a dit qu'il a pas trop aimé ce film, parce que là, il y a tout pour lui plaire. Hein.
Non, non, là, c'était parfait. Des grands blonds, très bien. Très, 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 très bien. Une reine très charmante, hein, d'ailleurs. Hein, très, très charmante.
Et qui est interprété par.
Qui était très bien interprétée par je ne sais plus qui.
Bravo, par Elisabeth de Debicki.
Debicki, voilà.
La reine qui s'appelle Ayesha, qui en fait, dans les comics, n'est pas une extraterrestre, mais une créature humaine, une création humaine, plus connue sous le nom de Kismet ou de Her, qui est très liée à un certain Adam Warlock, dont on reparlera tout à l'heure. Alors ici, on en fait carrément la reine d'une espèce extraterrestre. On en reparlera après, mais comme pour Drax, on va toutes les créatures qui ont des origines humaines un peu biscornues, on préfère simplifier ça en extraterrestre. Et ça permet aussi de ne pas faire que un focus sur la Terre où à peu près tout dans l'univers se passe, et c'est pas plus mal. Et
Ouais.
donc ils sont payés, oui, donc ils réussissent à contrer cette créature, avec d'ailleurs une superbe intervention de Drax, moi qui m'a fait beaucoup rire. Drax qui s'y connaît pas trop en anatomie visiblement, et le petit bébé Groot aussi qu'on suit pendant toute cette scène. C'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est qu'au début le focus n'est pas posé sur le combat contre l'espèce de monstre Lovecraftien qui a débarqué, mais clairement sur bébé Groot qui fait des cabrioles et des bêtises, et qui pourchasse des petites créatures. En tout cas, moi je l'ai trouvé très punchy cette mise en bouche et qui annonce la couleur avec évidemment une musique tirée de la bande son du film qui combine pas mal de chansons des années 70-80. Et suite à ça, on plonge très vite dans l'action car le film est quand même bien rythmé, il faut le dire. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé.
Oui, ça c'est quand même. Alors, on n'aime pas l'univers Marvel au cinéma. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut leur reprocher, c'est que ils savent faire des films assez dynamiques où on ne voit pas le temps passer et où c'est de l'action. Il y a pas de temps mort, quoi. Il y a pas le temps. Il y a pas de. Il y a voilà. Il y a pas de moment creux dans le film. Des fois, c'est justement le problème, quoi. C'est-à-dire qu'il y a que de l'action et on n'a pas assez de temps pour poser les personnages, quoi.
Oui, il
Et
faut
là,
dire
le
que le film
rythme, oui.
fait quand même 2h15, vu qu'on reste jusqu'au bout du générique forcément, donc on se tape les 2h15 et elle passe très bien.
Oui, ça. Alors, autant je suis un peu mitigé sur le film en général, autant clairement je n'ai jamais regardé la montre. Hein, globalement, j'ai pas eu ce problème-là. Donc ça, non, ça c'est bien réussi. Mais du reste, voilà, c'est l'un des points positifs, comme je disais avant, de Marvel, quoi.
Bon, j'ai quand même
Et
ressenti un petit temps mort, la scène du milieu, la scène humoristique où Groot doit chercher des objets, je trouvais qu'elle se tirait un peu en longueur. Et là, et comme c'était que de l'action à gogo, on switchait entre les groupes qui sont séparés à ce moment-là, et il y avait beaucoup
oui.
d'action à gogo et peu de parlotte. Là, je me suis dit, bon, on serait peut-être bien qu'on ait un peu plus d'intrigue, mieux ficelée, parce que ça faisait un peu long.
Bah, c'est-à-dire que là, c'est un peu bon, c'est un peu ce que je reproche un peu à ces films Marvel et spécifiquement les films Gardiens, c'est que quand un premier film marche, quand on sent que le public est réceptif, et notamment sur certains running gags d'un film, la suite, en fait, on va avoir la double dose, quoi. Donc le premier film, effectivement, il y a eu ce succès auprès du personnage de Groot, et aussi, on va dire, de sa version enfantine, hein, à la toute fin. Donc du coup, le public ayant aimé ça, ben non, on le refoue bien dans la gorge pendant tout le deuxième film. Et comme tu dis, la scène d'ouverture, on la suit du point de vue de Groot, et c'est intéressant, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais aimé que on n'y revienne pas à chaque fois, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous fasse pas le coup de. Alors, Groot va chercher ci. Allez, Groot va chercher ça. Voilà. Et le running gag de. Ah ben non, il a pas réussi à trouver ça. Ah
Et
ben il va
surtout,
revenir en
ah mais
arrière et essayer de le rechercher.
c'est insupportable, surtout que tu ne comprends pas pourquoi Groot comprend certaines choses et pas d'autres. C'est un coup, il est comme un enfant, enfin intelligent comme un enfant, et un coup, il est complètement débile. Comme le moment où on lui dit non, pas ce bouton-là, ce bouton-là, il comprend les manivelles, il comprend ce qui est compliqué, mais il ne comprend pas ce qui n'est pas compliqué. C'est un peu bizarre. C'est Groot, en fait, c'est un peu un personnage, je cherche le mot, je ne connais pas le jargon technique, mais c'est le scénario a besoin que Groot fait n'importe quoi, donc Groot fera n'importe quoi, que ça ait du sens ou non par rapport à sa caractérisation à d'autres moments du film. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est là aussi, pour moi, le problème que j'ai avec ces gardiens-là, c'est que si tu veux, les persos sont un peu des caricatures permanentes, quoi.
Oui, bon, il y a le cas de Drax, mais au moins Drax est cohérent. Drax est un peu idiot et un peu dans son monde, mais tout le temps. Pas comme Groot qui un coup est idiot, un coup est juste un petit enfant facétieux.
C'est ça, c'est ça. Même Star-Lord, non, je veux dire Star-Lord qui recherche en permanence l'approbation de ses ennemis. Hein, tu connais Star-Lord. Alors c'est vrai que c'est vrai. J'avoue, hein, je suis le premier à reconnaître le coup de on arrive, les gens arrivent là dans le deuxième et puis je crois que c'est Ego qui lui dit voilà tu es Star-Lord et puis bon bah lui ah mais tiens enfin on me connaît par mon nom. Ça
Ouais,
nous
mais c'est le
renvoie au
seul
pro.
moment où on fait la blague. Ils
Voilà,
ont pas
mais
été trop lourds là-dessus. Ça, c'était bien.
ça va. Mais si tu veux, ça nous renvoie, ça me renvoie à cette image de Star-Lord, le comique de base du premier film, qui me déplaît fortement, quoi. Parce que pour moi, enfin, moi, je trouve que Peter Quill, si on se souvient des comics, c'est spécifiquement de la fin de la fin, de sa fin, de sa première fin, hein, avec Nova face à Thanos. C'est quand même un perso qui voilà, qui a la certaine prestance, qui a du charisme, qui est plus finalement qui est plus cynique
Oui,
que blagueur, quoi.
il est plutôt cynique et roublard même, j'ai envie de
Voilà,
dire.
il là, tu
Alors,
vois. Bon, là, il
donc
est
là, il est
roublard,
frayeur
quoi.
et un peu empoté.
Ouais, c'est dommage quoi, c'est dommage parce qu'en plus Chris Pratt n'est pas le meilleur acteur de la planète, hein, on va pas se mentir.
Bah, surtout que le doublage de Star-Lord est affreux. Autant tous les doublages sont pas dégueux, autant la voix de Star-Lord, non, quoi, non.
Ouais. Mais je trouve que c'est limité donc bon après comme tu dis pour venir sur la scène de départ, c'est vrai qu'elle nous pose bien le je dirais le côté les gardiens sont unis, sont ensemble, ils ont de la bouteille, maintenant ils travaillent vraiment, enfin on va dire pour on va dire oui pour la galaxie. Alors là aussi, enfin ce qu'on sait pas trop c'est quelle est la part du Nova Corps là-dedans.
Bah, a priori, en gros, suite comme le Nova Corps a adoubé leurs actions à la fin du premier film, je pense que, mis à part chez les Kree et dans deux, trois endroits comme ça, dans tout l'espace libre, entre guillemets, ils ont été lavés de leurs crimes et ils sont connus comme les sauveurs de la galaxie. Donc, en
Ouais.
gros, et comme une espèce d'équipe de mercenaires gentils. Mais moi, en fait, il y a un truc qui m'a aussi marqué dans cette scène, puis on va aller plus loin dans le film, c'est qu'au final, ça représente bien les gardiens. Ils sont surarmés, mais ils sont très mal entraînés. Ils se coordonnent pas. Drax fait n'importe quoi. Bébé Groot fout le bazar et fait même des actions qui peuvent leur porter préjudice. Et au final, comment ils s'en sortent? Ben parce que cette créature qui n'arrive pas à blesser, il y a une entaille dans son cou. On ne sait pas si c'est eux qui l'ont provoqué cette entaille ou pas, mais ça tombe bien. Puis au final, là où les gros lasers et les explosions ne marchent pas, une lame va marcher et ça représente bien le film. En gros, ils font n'importe quoi, mais au final, quoi qu'il arrive, ils gagnent. C'est peut-être ce qui est aussi un peu dérangeant. Vous inquiétez pas, c'est des héros, ils vont gagner. Mais bon, je pense qu'on va pas épiloguer plus longtemps sur cette scène
Non, non.
d'ouverture. Et donc, ils arrivent à récupérer Nebula, qui a une rivalité avec Gamora. Alors, on
Gamora.
peut se pencher un peu sur ces deux personnages, vu qu'on a quasiment fait le tour de tous nos protagonistes.
Ouais,
Et
c'est... Vas-y, oui.
ce film, c'est à fond les ballons. Relation familiale. Alors c'est pas pour rien que finalement ces êtres chez qui pour qui ils remplissent un contrat et comme Rocket va voler des batteries, ils vont les avoir aux trousses pendant tout le film, sont une race eugénique où les relations père-fille ou maman-fils, enfin les relations parents-enfants n'existent plus parce qu'ils se créent génétiquement. C'est pas un hasard vu que tout le film est basé sur la notion de famille avec Star-Lord qui va retrouver son père génétique mais qui va se rendre compte que finalement son vrai père c'était Yondu avec la relation entre Gamora et Nebula qui va se ce qui est brisé, qui va se reforger, Drax qui se rappelle avec émotion sa famille qui est morte, et on a ces méchants qui eux sont les gens qui n'ont pas de famille, où la famille a été détruite. Donc il y a beaucoup de symbolique là derrière, et le problème c'est que c'est fait de manière très très lourde pendant tout le film, et je crois que t'es du même avis que moi là-dessus.
Ah, ben moi globalement tout ce qui est la relation entre Gamora et Nebula, je n'en pouvais plus quoi, mais pouvais plus. Alors déjà dans le premier film ça c'était quand même limite saoulant, bon, cette rivalité là toujours à se mettre sur la gueule, bon pourquoi pas à la limite à s'imposer, mais là remettre ça dans le deuxième film, c'est chiant. Et ce que j'aime pas, alors déjà ça leur donne le côté un peu pif et Hercule du film. Donc c'est vraiment pif et Hercule quoi, c'est-à-dire quand il y a pas d'enjeu, on se met sur la gueule pour un oui ou pour un non, et puis quand il y a un plus gros truc qui arrive et qu'il faut se serrer les coudes, on est ensemble quoi. Sauf qu'au moins pif et Hercule c'est drôle quoi, ou un minimum drôle quoi. Là c'est terrible quoi. Enfin c'est moi je n'en pouvais plus quoi, de les voir chaque fois que tu les voyais chaque fois que les deux étaient dans une même pièce, fallait qu'ils se mettent sur la gueule jusqu'au moment où, et alors là non finalement j'ai pas compris que je t'ai fait du tort, que je t'ai blessé quand j'étais gosse, je suis désolé et tout, et puis ça
non, c'était plus j'étais obligé, tu t'en rendais pas compte, mais...
Oh mon dieu, quand ça tombe dans la guimauve là, tout ça là pour le coup, quand c'est tombé dans la guimauve à la fin, je me suis dit oh non finalement mettez-vous sur la gueule quoi.
Oui.
Oh putain, oh, mais moi, c'est pas possible quoi.
Ce qui m'a tué c'est Yondu qui se découvre une fille paternelle, bon il l'a toujours eu en fait, ça c'est un peu malin de découvrir pourquoi Yondu s'était attaché à Peter Quill. On reviendra tout à l'heure un peu sur Yondu et les Ravageurs et toute cette histoire autour d'enfants, mais que finalement, si il avait gardé Peter Quill, c'est parce qu'il avait bien compris qu'un destin funeste risquait de l'attendre s'il le livrait à Ego. Et à la fin, quand il le sauve, il lui fait un papa en Anakin, et que d'un coup, il devient une espèce de papa poule. Enfin, je me suis dit, non, mais c'est quoi cette horreur? Mais arrêtez!
Mais c'est comme tu dis, c'est le thème de la famille qui est permanent, comme entre, enfin, d'une certaine manière entre Peter et Gamora. Alors est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce que c'est un peu sa sœur, sa confidente?
Bah, au final, on comprend à la fin que, enfin, on comprend dès le début, même depuis le film précédent, qu'il veut la pécho et que elle veut pas, mais en même temps, elle est distante, mais en même temps, elle est pas froide. Quand tu vois le comportement de Gamora, qui se comporte absolument pas comme une tueuse qui a été comme Nebula. Nebula, on comprend qu'elle est folle vu l'enfance qu'elle a eue. Mais Gamora, elle se comporte finalement comme si tout allait bien, comme si elle avait tiré un trait sur son passé. Et on comprend pas trop pourquoi finalement elle repousse les avances de Peter. Et à la fin, on voit bien que a priori, c'est bien parti pour qu'ils aillent faire la chose dans la cabine.
Ah bon?
Enfin, on devrait s'avouer des choses, puis ils se prennent, il la prend par la taille, elle le prend par les épaules ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà, quoi, on comprend que dès qu'ils ont un peu d'intimité, ils vont pouvoir s'y mettre.
Parce que, faudrait qu'on y revienne avec Mantis, mais il y a le moment entre Drax et Gamora, là, que j'ai pas. Peut-être pas très bien compris là.
Bah, on peut y revenir tout de suite parce que dans les nouveaux persos, donc on a fait le tour des anciens persos.
Ah bah
ils sont tous de retour.
Enfin on va vite dire, il y a aussi Rocket, enfin qui est toujours doublé par Bradley Cooper dans la version originale.
Rocket, aucune évolution par rapport à lui, si ce n'est une amitié qui se lie avec.
Globalement c'est le thème de ce film. Pour moi ce film c'est un gardien 1.5, c'est-à-dire qu'il y a aucune évolution sur les personnages. Hein, tout le film quoi, pour moi c'est vraiment limites, on a ressorti les jouets au début du film, on les a pas bougés de place et puis on les re-rentre à la fin quoi, tu vois, parce qu'il faudrait pas gêner puisqu'il y a Avengers qui sort dans un an quoi.
Je sais que ça fait beaucoup de choses, chers auditeurs, sur lesquelles on reviendra, mais par rapport à ça on sent aussi qu'il y a de la retenue pour certaines choses, mais après le processus, le problème des films en équipe, hein, c'est comment développer tous les personnages sans que ça bouffe trop de temps sur l'intrigue. C'est pour ça que Avengers reste pour moi un modèle du genre. Même si Avengers dispose de personnages qui ont des films solo où ils évoluent, là c'est des personnages qui n'évoluent que dans leur propre film en équipe. Donc c'est plus compliqué. Mais parmi les nouveaux personnages, avant de passer à Mantis, on peut peut-être tout simplement parler du plus gros nouveau personnage au niveau intrigue qui est introduit ici, c'est Ego.
Spartak? Non, c'était une blague.
Ah oui, Ego qui... Eh oui, ce n'est pas Jason de Spartax, le père de Peter Quill. Ça, on nous l'avait dit depuis très longtemps. Ici, c'est Ego, la planète vivante. Rappelez-vous, ce super personnage, cette planète avec une barbiche et des gros yeux.
Ouais, violette.
Voilà, et qui ici est interprété par Kurt Russell. Alors, à l'époque, quand la nouvelle est sortie, beaucoup de gens ont fait les gros yeux, mais non, trahison, c'est une planète. Alors, moi, j'ai vu venir le truc, j'ai fait mes spéculations, je me suis dit, bon, j'espère qu'ils vont nous faire le coup de Ego est vraiment une planète et c'est juste une partie de lui qui se transforme en humain. C'est exactement ce qui arrive, banco, c'était la bonne solution. Surtout que ça contredit pas totalement les comics, ce genre de choses. Et Kurt Russell, quand même, qui explique que c'est une créature céleste. Voilà, petit clin d'œil au céleste. On avait déjà la tête de Céleste qui formait la base Nowhere dans le premier Gardien. Ici, on mentionne le fait que les créatures célestes semblent pas des dieux qui existent dans cet univers, qui a formé une planète. Et moi, alors, je sais pas si ça fait rire, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. Il a formé ce qu'il pense être la créature ultime de l'univers, et ça devient un mec chevelu des années 80.
Ah oui, ça c'est quand même une vision de la perfection universelle assez foudroyante, quoi.
Oui, surtout qu'il suffisait de montrer que pour chaque espèce qu'il rencontre, il prend leur forme, vu qu'il a ce pouvoir-là. Ça aurait été tout à fait logique, et ça aurait rien coûté de plus en images de synthèse, je pense. Et non, on nous dit qu'il se transforme d'emblée en personnage fin des années 70, début 80, cheveux longs, blouson, etc. Enfin bon,
Bah,
toujours
c'est-à-dire
est-il.
que s'il nous avait dit que en voyageant dans tous les univers, la perfection, ce qui représente le mieux l'univers, c'était Howard the Duck, effectivement, ça des problématiques, quoi. Mais oui, c'est un raccourci qui est tellement qui est facile, quoi, si tu veux, pour avoir la figure paternelle vis-à-vis
Oui,
de
oui.
Peter Quill, pour avoir sa relation avec sa mère, bon bref, c'est
Bah, surtout qu'en plus, il nous explique qu'il prend cette forme-là devant Peter parce que ça rappelle David Hasselhoff, qui était le père fantasmé de Peter. Et bon, bref, on va pas non plus trop se perdre là-dessus, mais c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très gênant. Et on comprend donc que Ego a voyagé dans l'univers pour découvrir la vie, comprendre d'où il vient. Il est tombé amoureux de la mère de Peter, il l'a quitté, ça lui a brisé le cœur. Et évidemment, on découvre qu'il y a autre chose derrière, et qu'il a un plan caché, qu'il a fait des bébés partout, et que Peter est le seul chez qui des pouvoirs divins se sont manifestés.
comme par hasard.
Oui, comme par hasard. Alors là, pour le coup, quand même, on a quand même ce côté, le sauveur vient de la Terre. Mais bon, ça m'a pas gêné plus que ça, quoi. C'était une ficelle comme une autre, bon, soit. Et surtout, ça explique pourquoi Peter peut tenir la pierre d'infinité dans le film précédent.
Oui.
Mais ça me fait marrer quand même que cette personne qui a pu mandater Yondu et qui donc a des relations avec la galaxie d'où vient Peter n'a jamais pu retrouver Yondu.
Ah, ça c'est
Qui
fou
avait
quand
Peter?
même.
Ça, c'est le plus gros plot hole, comme on dit, de tout le film pour
Ah,
moi.
ça quand même, c'est vrai que c'est censé être un être surpuissant et je dirais qui sait tout quoi finalement, qui est vraiment qui est divin tout simplement. Il mandate déjà une bande de bras cassés pour aller chercher son fils et puis jamais il essaie de le retrouver. Ça c'est quand même un peu fort de café quoi.
Oui, voilà, alors que on
Déjà,
aurait tout.
moi, si je devais aller chercher mon fils sur une terre à l'autre bout de la galaxie, j'irais surtout pas demander ça à la bande de frappadingues des Ravengers, quoi.
Non mais comme on le comprend, c'est que jusque-là, Yondu a toujours kidnappé des enfants pour lui et les a toujours bien ramenés. Donc au final, pourquoi pas qu'il fasse appel à lui, mais c'est surtout qu'il n'est pas vraiment recherché ou qu'il n'est pas retrouvé. Ça me paraît un peu bizarre, c'est un peu facile pour le scénario, cette petite pirouette.
Ben c'est comme si on
Mais.
avait demandé au professeur Tournesol de faire une fusée dans Tintin, quoi. Tu vois, c'est un peu.
Mais toujours est-il que parmi les nouveaux personnages, on a donc Ego, accompagné de Mantis, autre personnage cosmique à la genèse très 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 compliquée dans les comics, qui ici devient juste aussi une créature venue d'une autre planète. Et je trouve que elle, ce qui est bien, c'est qu'avec Drax, on a vraiment deux personnages qui se comportent comme des extraterrestres, qui sont le plus différents possible qu'on peut l'être d'humain, comme il peut être possible dans ce film-là de les imaginer. Alors, désolé, ça fait beaucoup de possibles. J'aime bien, moi j'aime bien cette relation qui s'entretient entre, qui se crée
Bah,
entre elle et Drax.
ça l'interaction, elle est effectivement sympathique. Juste le perso de Mantis, c'est quand même un joli Deus ex machina pour régler le problème ego, quoi.
Oui.
Encore une fois, c'est toujours le problème si tu veux introduire des persos qui sont surpuissants de la mort qui tue. C'est que après, on est bien emmerdé pour pouvoir les contrôler ou pouvoir les battre, quoi.
Ouais, et
Et
encore, elle, elle est
t'es
pas
obligé de
si
passer
surpuissante
par.
que ça.
Bah, elle est pas surpuissante, elle arrive quand même à endormir une planète divine, quoi, si tu
Oui,
veux,
tout à la
c'est...
fin, oui.
C'est bon, moi je veux bien, hein, je veux bien. Alors je veux bien admettre qu'effectivement ça ne peut durer quand l'autre est bien énervé que quelques minutes, mais bon, c'est intéressant quand même à avoir dans son équipe.
Et puis, je pense que, je sais pas si toi t'as hurlé aussi, mais à la fin, tu ne comprends pas pourquoi Ego ne gagne pas. Il arrive à combattre sur plusieurs fronts, les gardiens sont ensevelis par ses membres, les membres de Ego formés par des gravats, des rochers et tout. Et pourquoi est-ce qu'il les ensevelit tout doucement? Pourquoi il les tue pas? Tu ne comprends pas pourquoi il ne gagne pas. C'est pas normal qu'il ne gagne pas.
Bah
Et
déjà,
pourquoi il peut se manifester partout sur la planète, mais par contre, dans le tunnel emprunté par Bébé Groot, pourquoi il se manifeste pas là aussi, ses tentacules?
il est omniscient. Il est défini comme un perso qui est omniscient. Donc déjà, bon, alors il faut avaler le fait qu'il n'arrive pas à retrouver Peter. Ça déjà,
Alors
ça fait un peu tiquer.
il est pas si omniscient que ça dans l'espace. Bon, quoique, il peut se connecter à l'espace, mais sur sa planète, lui, il devrait être
Ben
omniscient.
voilà, alors, sur sa planète, il est, en l'occurrence, et c'est quand même pas possible de se dire qu'il n'est pas. Qui voit. Enfin. Qui ne se doute pas que Groot est là quelque part qui traîne quoi. Il y a quelque chose qui,
Oui, il y a quelque chose qui ne
enfin
fonctionne pas.
bien sûr, enfin il le sait d'une certaine manière parce qu'on voit quand même la caverne qui se rétrécit autour de Groot.
Mais doucement, elle se rétrécit doucement et on ne crée pas des stalactites pour le blesser, quoi. C'est
Voilà,
doucement, quoi,
mais il n'y a pas
tranquille.
de problème avec la bombe, tout va bien. Et puis Peter, alors lui c'est parfait quoi. Tu vois, il vient de découvrir il y a 30 secondes qu'il était semi-dieu et puis tranquille, il arrive à utiliser le pouvoir. Non mais surtout Peter, pense aussi. Il faut que tu penses comme un dieu. Ouais, mais super,
Ah oui, et puis je n'utilise pas ma tête pour faire voler ma flèche, mais mon cœur. Et j'utilise pas
ouais.
ta tête. Comment tu fais pour la diriger?
Non mais.
C'est bon,
C'est ça.
c'est le côté, oui, tout vient du cœur, etc. C'est dommage, on enlève ça, le film gagnerait.
Moi, c'est ça qui m'emmerde, en fait, grossièrement, avec le côté je fais de Peter le fils d'Ego, et finalement je sais plus le fils de
Jason
Jason,
de Spartax.
voilà.
Bon, alors, à la défense de James Gunn, Peter fait aussi partie de ces personnages qui avaient une origine complexe, parce qu'à la base, dans les premiers comics, c'était le fils du Master of the Sun. Puis à un moment, on savait pas trop, Star-Lord, s'il était de la Terre 616 ou pas, il était question à un moment qu'il venait d'un futur alternatif. Hein. Star-Lord, jusqu'à sa reprise par Abnett et Lanning, a eu des origines très 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 complexes. Et je crois que ça a encore été retconné récemment dans la série Legendary Star-Lord. Donc voilà, c'est pour ça que moi je lui pardonne d'ailleurs d'avoir changé ses origines, parce que c'est tellement le bordel dans les comics, on oublie que pendant 30 ans, 20 ou 30 ans, c'était pas Jason son père, qu'il peut y aller, quoi.
Ben je suis d'accord, mais quelque part, si tu veux, ça crée le problème, quoi. Parce que si tu veux, d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où ils introduisent Star-Lord comme le fils d'Ego, de toute façon, tu te doutes que il va y avoir une opposition entre le père et le fils, avec
Ah
toujours le côté le père qui tue le fils, tout ça. Et je trouve ça dommage parce que, et c'est là que je reviens à mon problème avec cette itération des gardiens et, je dirais, de l'univers cosmique de Marvel en général, c'est qu'il y a tout le côté un peu ésotérique de cet univers-là que, en fait, le cinéma enfin jette à la poubelle, quoi. Tu vois,
oui.
ce sera toujours un affrontement de points, ce sera jamais un affrontement d'esprit ou quoi que ce soit, quoi, tu
Oui,
vois?
et là, c'est quoi? C'est les gentils contre un grand méchant, avec un deuxième groupe de méchants qui les fait chier. C'est pas une saga cosmique comme on aimerait, comme
Oui.
ça nous a pu nous faire vibrer dans les comics d'Abnett et Lanning, ou même
Et
avant, dans les Anciens Gardiens, avec des combats qui se passent sur plusieurs fronts. On a quand même les gardiens qui sont séparés pendant le film, en deux groupes, mais ils finissent par se rejoindre. Et ça, c'est
ouais.
dommage, ouais, ça manque d'ampleur.
Ouais, c'est
Par
ça arrive,
contre,
ouais.
je trouve quand même que Ego reste plus réussi que Ronan.
Ah mais Ronan, de toute façon, bon, Ronan, voilà.
C'était une honte, Ronan.
Ronan, c'était une honte, on est d'accord? Ça n'a jamais été non plus, si tu veux, historiquement, c'est pas pour dire non plus que c'était le perso le plus travaillé, quoi.
Sauf sous Abnett et Lanning.
Exactement. C'est
Mais
ça
lui.
que je disais au début du podcast. Malheureusement, on va devoir à chaque fois faire un renvoi là-dessus, mais c'est toujours ça, quoi. Mais malgré tout, Ronan, enfin.
Bah, Ronan, il y avait le problème de. On va parler des cris. Mais on va pas trop en parler quand même, parce qu'on aimerait
Voilà.
peut-être les réutiliser un autre jour, soit dans Avengers, soit dans un autre Gardien, soit dans, pourquoi pas, un crossover ou une guerre contre les Kree. Donc on va montrer un peu les Kree, mais pas trop.
Et puis on en fait un peu un suppôt de Thanos, comme ça, ça nous évite de mettre Thanos dans le premier gardien.
Voilà,
et,
oui. On en fait une espèce de Thanos bis. Ils sont massifs et bleus tous les deux. Ils ont des pouvoirs à peu près cosmiques et des minions, des sous-fifres tous les deux. Mais Ronan, ils auraient pu juste le, je sais pas, ne pas le tuer, le mettre dans le coma ou le mettre au frais pour une suite. Ça qui était très
oui.
dommage, mais.
Oui.
Mais voilà, surtout que le Ronan de l'époque, on sortait de la bonne époque où on avait eu un Ronan qui était très nuancé, qui était chef des cris, qui au final on se rendait compte que c'était avant tout un soldat qui voulait protéger son peuple et qu'il n'était pas du tout aussi méchant que ça au fond. Et on avait ce Ronan unilatéral dans les films, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faisait mal. Enfin, tout ça pour dire que, mine de rien, je suis content que le vilain, même si ça change pas des autres films, d'un vilain qui veut détruire le monde, contrôler le monde ou que sais-je encore, on avait quand même un vilain qui a de la gueule. Et Kurt Russell a quand même du charisme.
Ah ben oui, c'est Kurt Russell. Alors c'est quand même Kurt Russell qui cabotine hein, malgré tout. Hein, faut quand même. C'est un peu le Kurt Russell qu'on voit en même temps dans Fast and Furious, hein, qui est un peu ce côté-là, un peu vraiment troisième degré. Mais bon, ça me
et
choque
Kurt
pas.
Kurt Russell lifté aussi au début.
Ouais, lifté, ouais, effectivement. Bah ça, son interprétation et le fait que bon, ils aient donné un peu forme humaine à Ego, je trouve que c'est une bonne idée. Ça me choque pas. C'est juste le côté, voilà, Star-Lord qui devient son fils et finalement on se prive un peu de sa lignée royale et du coup on se doute bien d'où on va et on se doute bien que dans ce film-là, ça va être voilà, il va utiliser ses pouvoirs de dieu. Enfin, c'est
et en plus maintenant Star-Lord a un potentiel en lui qu'on pourra ou pas réutiliser à loisir.
Oui,
ça devient
en fait Star-Lord, c'est un peu le Sangohan des Gardiens de la Galaxie, quoi. Tu vois, c'est celui où on passe la série à te dire attention, lui il a un potentiel de dingue. Méfiez-vous le jour où il va l'utiliser, quoi. Donc et c'est.
Ben, tu sais à quel autre personnage des comics il me fait penser? Il me fait penser à Rick Jones. Qui a cette espèce de pouvoir cosmique en lui. D'ailleurs, lorsque Star-Lord connecte son fils à... Lorsque Ego connecte son fils Star-Lord à l'univers, Star-Lord a les yeux pleins d'étoiles, alors il parle de l'éternité, on se dit, ah, bah, référence peut-être au personnage d'éternité. Et moi, ça m'a fait penser à la conscience cosmique à laquelle accèdent Captain Marvel et Rick Jones. Tu sais, tu vois ce que je veux dire, quand ils sont représentés comme s'ils étaient l'espace et ils ont accès à tout à l'ensemble du cosmos. Et voilà, ça va être comme Rick Jones. Lorsqu'il y en a besoin, on ressort un pouvoir qu'on n'a pas utilisé depuis 15-20 ans, c'est pas grave, là il y en a besoin, bah, il a un potentiel cosmique en lui, on le ressort.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que du coup, au niveau de l'intrigue du film, donc on a les gardiens qui finalement sont... ont été payés entre guillemets par la race des grands tout dorés là.
Les souverains.
Les souverains, putain. En plus, ils ont un peu d'ego eux aussi, si je puis dire.
Ah oui, bah voilà, le niveau bataille d'ego.
Ah oui, là ça se pose là, ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est évidemment ce cher Rocket qui vole les batteries des souverains. Et puis finalement, le scénario c'est ça, c'est les gardiens qui sont dans l'espace et qui sont poursuivis de part en part. Alors par les souverains, ils atterrissent sur une planète, et puis Ego arrive, et puis finalement, là, on a, comme tu dis, la séparation, les gardiens, enfin, une partie de l'équipe, donc c'est Gamora, Peter et Drax,
qui partent avec Mantis et Ego.
Avec Mantis et Ego, et puis Rocket et Groot qui restent sur la planète à attendre quoi, les ravageurs, ce qui finissent par les rattraper.
Il y a quand même une raison, ils gardent Nebula et ils réparent leur vaisseau avec leur spray qui répare les vaisseaux.
Ouais, mais
alors ça,
c'est là...
je sais pas si c'est de la nanotechnologie ou de la technologie basée sur la lumière ou je sais pas quoi.
Visiblement, Rocket est devenu un génie de la technique. Il peut tout faire.
Mais, par contre, pour revenir sur cette planète, là, il y a un truc qui m'a fait hurler. C'est oui, je suis ton père. Et puis on les retrouve. Ça fait quelques heures qu'ils sont assis. Bah, il est pas allé plus loin dans cette histoire, donc tu sais pas de quoi ils ont discuté. Et je vous dirai tout quand on ira sur ma planète demain.
Ah, c'est... Oui,
donc,
c'est...
donc du coup, ils vont encore passer la soirée à la nuit à ne pas discuter du fait que. Kurt Russell, Ego et le père de Star-Lord, arrivé sur la planète pareil. Je vais te révéler des trucs, mais pas tout. On attendra demain pour le reste. Mais purée, mais ils font quoi pendant ce temps? Ils se touchent? Enfin, c'est pas possible.
Ah, moi, j'aimerais bien toucher Gamora. Mais
voilà, et j'ai regretté de dire cette phrase au moment où je l'ai dit. Dites, mais non, mais ça, c'est une facilité scénaristique.
Ouais, de toute façon, si on peut identifier un temps mort, dans le film, c'est effectivement tout ce qui se passe sur Ego, quoi. Les explications d'Ego sur sa nature, sur ce qu'il, comment il a rencontré la mère de Peter, et ainsi de suite. Les atermoiements de Peter, les petites blagounettes entre Mantis et Drax, tout ce qui se passe là-dessus, on a vraiment un temps mort. Enfin, vraiment, c'est le plat intégral, quoi. Alors que, effectivement, de l'autre côté, au niveau des Ravageurs, ça bouge beaucoup plus avec une mutinerie organisée grâce à Nebula, hein, notamment.
Et avec le retour du personnage joué par Sean Gunn, le frère de James Gunn, le réalisateur.
Voilà.
Sean Gunn, que vous avez pu voir déjà, par exemple, dans Gilmore Girls, notamment, où il jouait, pareil, le rôle d'un personnage un peu goofy. Et là, qui s'appelle Kellak, je crois, dans Les Gardiens de la Galaxie, si je dis pas de bêtises. J'oublie tout le temps son nom.
Bah là, oui.
Et donc, qui lance, lui qui pourtant est un fidèle de Yondu, qui va lancer une mutinerie, qui va coûter la vie à une partie du vaisseau.
C'est Kraglin.
Kraglin, voilà. Dont un nouveau personnage, Tulk, joué par Tommy Flanagan, rappelez-vous, le motard écossais de Sons of Anarchy, qui va aller mourir dans l'espace, comme on aime bien le dire sur Comic City.
Oui.
Et donc, on a une belle mutinerie. Et on a là un personnage, alors là, j'ai bien aimé le personnage, toujours présent un nouveau personnage, de Taserface.
Alors, qui était déjà apparu dans les comics, hein.
Oui, alors je crois du moins que sa race est déjà apparue dans les comics.
Oui, c'est sa race. Alors, c'était des antagonistes, il me semble, des gardiens dans les débuts des années 90.
Il fait partie de la race des Stark. Dans Les Gardiens qui se passent dans les années 3000, on découvre que de la technologie de Stark est née la race des Stark et ils sont inspirés de ça. D'ailleurs, de manière générale, la plupart des races ou des planètes qui sont évoquées existent. La planète Contraxia sur laquelle ils se crashent, elle existe, par exemple. Une bonne partie des races qui peuplent le vaisseau de Yondu, comme ce personnage-là, ils sont issus des comics. Vous pouvez trouver des listes sur internet, on va pas les faire.
Visiblement, tout est de la faute de Tony Stark, hein, dans l'univers Marvel. Encore un jour, il va être au but.
Et oui, et donc on a Taserface, on a droit à des blagues là-dessus. Bon, moi, ça m'en fait marrer, c'est un peu con.
C'est très con, mais si tu veux, quand Croquette le fait tout le temps, la blague sur Taserface, mais quand en plus il y a l'autre perché des souverains qui l'a fait aussi, enfin.
Par contre, autant quand Rocket le fait, encore une fois, il y a un décalage, Rocket ne pense pas comme un être humain. Par contre, quand les souverains qui sont censés être hautains et le font aussi, là on rentre dans le côté qui m'a dérangé, qui je crois t'a dérangé aussi, le côté un peu goofy comme lorsque...
Ah ben tout le temps.
Quand Rocket se défend face aux ravageurs et qu'on les voit sauter au-dessus des arbres et ressauter, ils font des cabrioles, ils devraient mourir explosés et non en fait. Là, l'humour va trop loin et en plus ne colle pas avec la cohérence générale de l'univers étendu Marvel.
Voilà, c'est vraiment le côté de James Gunn que j'aime pas. On a l'impression que le gars se pose, regarde son film et dit, mais c'est très drôle ce que je viens de faire. C'est vraiment très drôle.
Ah bah, je vais le refaire. C'est des choix, et puis finalement, c'est ce qui donne aussi son identité au film, finalement.
Ouais, bon, tout le temps, si tu veux.
Je suis d'accord, c'est trop.
Une bonne blague, c'est aussi, si tu veux, je sais qu'il y a le running gag, mais. On l'avait déjà suffisamment eu comme ça, le running gag de Taserface, pour pas se le prendre encore en pleine tronche, quoi.
Niveau blague qui dure trop longtemps, on a Groot qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut chercher en chambre. Et c'est marrant quand il ramène un ou deux objets, mais c'est là où le temps mort que j'évoquais plus tôt dans l'émission, c'est long.
Et heureusement, justement, qu'il y a Kraglin qui vient régler le truc en disant
Surtout, il déplace des bureaux, au bout d'un moment, tu te dis, mais les ravageurs, personnages de dessin animé, ils dorment tous, ils sucent leur pouce, ils dorment avec des nounours. Ça devient ridicule. On a par contre un truc qui m'a fait marrer, c'est le coup de l'œil que ramène Groot, qu'on avait déjà vu dans le premier gardien où Rocket se moquait, voire même voulait même récupérer l'œil d'un des ravageurs. C'est l'œil en question que ramène Groot.
Oui, ça je m'en souvenais, ouais.
Ça m'a fait sourire.
Ouais, c'est toujours ces renvois qu'ils font sur le premier épisode, comme sur le côté Star-Lord est connu dans l'univers.
Oui, mais ça, ils ont fait une blague dessus, comme pour Star-Lord.
Voilà, ça va. En l'occurrence, bon, si ça s'en tient là, c'est bon. Mais c'est juste quand c'est trop répétitif, quoi, que c'est chiant. C'est pareil, Mantis et Drax qui ont leur petit duo de premier degré. Voilà, une fois ça va, deux fois ça va, tout le temps, non, non, non,
c'est
pénible.
Dérangé.
Moi je trouve ça pénible, surtout que Drax, enfin, bon, Drax, c'est pas, en soi, c'est pas le perso le plus intelligent, hein, on est bien d'accord. Mais là, vraiment, il passe pour un espèce de guignol en permanence.
Bah, il essaie justement de faire du second degré ou de faire des sous. Il essaie de faire des sous-entendus, en fait, et il n'y arrive pas. Et il se contredit, il se découvre des sentiments, parce que Drax, quand même, il a perdu sa famille. Mantis, a priori, ne.
Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on dirait plus finalement. On dirait plus qu'il a perdu sa famille, bah, qu'ils ont tous été assassinés, quoi.
Ça, je suis d'accord. Quand Mantis le touche, elle devrait ressentir une immense tristesse, et c'est pas le cas. Après, le fait que, bah, il découvre une fille qui lui fait oublier sa famille perdue, et en plus une fille qui a priori ne représente pas ses canons de beauté habituels et qu'il éprouve des sentiments pour elle, ça c'est pas mal. Alors il cabotine un peu, il patine, et moi ça j'ai trouvé ça touchant, ça j'ai bien aimé, tu vois, on s'opposera là-dessus, je pense. Mais toujours est-il que bah on ne peut pas arrêter le podcast sans évoquer un autre nouveau personnage, un caméo de luxe, parce qu'au final c'est plus du caméo qu'un vrai rôle.
Oui.
Je te laisse le présenter.
Spartak.
Non. tu vas pas arrêter avec ton Spartak. Non, mais il a un nom qui ressemble beaucoup, en effet. Donc Starhawk, qui n'est pas appelé Starhawk ici, mais qui s'appelle en fait Stakar. C'est pour ça qu'on peut le confondre avec Spartak. Stakar Vaughn, qui encore une fois, voilà, un personnage qui est humain dans les Gardiens originaux qui se passe dans les années 3000 et qui est interprété par nul autre que Mr. Sylvester Stallone.
Ouais. Donc tout ça pour ça, encore une fois.
Voilà. Stallone qui apparaît dès le début, troisième scène, après avoir vu la mère de Peter et les gardiens, on voit Yondu et ses ravageurs, et là, Stallone qui arrive. Et là, j'étais content de le voir en VF, parce que la voix de Sylvestre, voilà quoi.
Le commandant Sylvestre.
Ouais, bon, j'ai revu Demolition Man récemment, donc moi je voyais Demolition Man, quoi, mais... Et là, je suis content et pas content, parce qu'on va nous introduire... tous les gardiens originaux en plus de Yondu. Alors Yondu dans les comics, on a réadapté ce Yondu là en expliquant que c'était l'ancêtre du Yondu du futur, et quand j'ai su que Stallone apparaîtra en tant que Starhawk, je me suis dit, ah, si ça se trouve on va avoir soit un Starhawk qui vient du futur comme dans les gardiens de Lanning, voilà, encore une fois, soit on aura peut-être un Starhawk dans le présent qui sera encore vivant dans le futur, ou qui voyage dans le futur, qui viendra dans le passé, enfin bref, je me suis dit, voilà, on aura le Starhawk qui est un personnage cosmique et qui fera le lien avec les gardiens du futur. Et ici, pas du tout.
Ouais, non, c'est juste un chef, le chef. Alors, est-ce que c'est le chef des ravageurs?
Oui, c'est le chef des ravageurs, a priori. Alors, les ravageurs qui sont des pirates de l'espace et qui ont un code de l'honneur, donc on n'a pas le droit d'exploiter les enfants. Yondu, c'est les années qu'il exploite des enfants, alors il s'en rend enfin compte, alors que ça fait longtemps que Peter s'est barré. On se dit encore une fois, mais soit...
Qu'est-ce qu'il foutait, ouais.
Voilà, oui. Vu qu'on est dans un univers où c'est pas long de communiquer ou de traverser l'espace, ça fait longtemps qu'il devrait le savoir.
Oui, puis les traîtres, ça manque pas. On peut se douter quand même qu'à un moment donné, il y en a peut-être un qui aurait vendu la mèche pour avoir une augmentation ou une promotion auprès de Starhawk. Pour le coup, non. Hein. Visiblement... C'est l'omerta, hein. Voilà. la traite des enfants par Yondu, c'est l'omerta. Ça c'est.
Ouais, voilà. Il a l'air de le découvrir. Et donc Starhawk, accompagné d'un autre gardien original, Martinex, qui n'est pas du tout de ma famille du coup, qui.
Alors, Moulinex.
Voilà. Qui est interprété en fait par Michael Rosenbaum.
Eh oui, le Lex Luthor de la fabuleuse série Smallville.
Moi j'ai envie de dire le seul acteur et le seul personnage qui avait de l'intérêt dans Smallville.
Non, Christine Kruk aussi, très bien.
Bah, Michael Rosenbaum, donc Lex Luthor, qui à chaque fin de saison oubliait que Clark avait des pouvoirs.
Oui. Oui, ça c'était assez intéressant quoi comme concept.
C'était ouais, le
il avait gag, c'était en fait les scénaristes qui se disaient, oh putain merde, quand même faudrait peut-être pas oublier qu'en fait Lex il sait pas trop ce qui est Superman, hein, enfin en l'occurrence qui est même pas Superman encore, donc ouais, il faudrait peut-être reconnaître tout ça là, un petit peu là, hop là, une petite amnésie comme il vient. Alors des fois une voiture dans la gueule, sinon un coup de chalumeau, enfin voilà, t'as trouvé toujours les trucs très bien.
Ouais, et là, tu vois, justement, j'étais déçu quand j'ai vu que Starhawk était là, en plus qui était accompagné de Martinex. Je me suis dit, non, mais c'est mort pour qu'on ait des gardiens du futur avec lui dans ce rôle, quoi. Et à la fin, on a, au funérail de Yondu, et dans une des scènes post-génériques, on a les autres gardiens originaux réimaginés pour coller à cet univers qui apparaissent, avec Charlie Vansett, qui ici n'est plus un petit homme trapu qui bosse sur Jupiter, mais est interprété par le massif Vin Rames. Donc, changement de couleur, Charlie 27 qui devient black. Pour moi, ouais. Ça m'a pas dérangé. Pourquoi pas?
Bah non, Vingrem, c'est un excellent acteur. Non, ils ont raison.
Marcellus Wallace dans Pulp Fiction. Et puis, à la même manière que Idris Elba qui interprète Heimdall.
Heimdall, pardon.
L'acteur a la carrure.
Non, mais voilà,
Parfait en Heimdall parce qu'il a la carrure. Et là, il colle au rôle. Et là, clairement, on s'en fiche que ce soit noir ou blanc, quoi.
Mais on se pose même pas la question, hein, tout simplement.
Oui, voilà, c'est juste que bon, est-ce qu'il aura son origine de créature génétique ou pas, on sait pas, et encore une fois, ce sera plus un descendant d'humain, mais surtout un extraterrestre.
Idris Elba, il aurait pu être Steve Rogers, que ça m'aurait pas dérangé, hein.
Bon, Idris Elba est tellement classe et tellement bon acteur, en même temps, il pourrait jouer un peu tout et n'importe quoi.
Ah, tout à fait, ouais. Il pourrait jouer la reine d'Angleterre aussi, hein.
Et alors, on a d'autres personnages qui apparaissent encore, issus des gardiens originaux. On a, alors je te laisse en présenter un autre si tu veux.
Des gardiens originaux oui. Non, là je sais plus, là du coup je crois
donc,
que tu les as tous
on fait. A aussi Michelle Yeoh, je crois que tu aimes bien toi comme actrice Michelle Yeoh.
C'est pas toi qui aimes bien. Ah si, j'aime bien, mais oui. moi je suis plus, comment elle s'appelle, Gong Li.
Allez voilà, dans l'intimité de Jonathan du podcast.
Gong Li, effectivement, Zhang Ziyi. Et, donc, et je pourrais vous parler surtout de Chouki, mon amour éternel pour Chouki.
Non, si vous êtes largué, moi je suis largué aussi. Ça sent les divas du catch. Mais on va pas se.
Je t'en prie. C'est quand même des actrices merveilleuses du cinéma hongkongais et chinois. Respect, je te prie.
Toutes mes excuses. Michelle Yeoh, la reine d'ailleurs du film d'action hongkongais, qui ici interprète Aleta Ogorod, qui dans les comics, il s'agit en fait de la sœur adoptive de Starhawk, qui finira par obtenir les pouvoirs de Starhawk et même par se marier avec lui. Bon, allez, on est encore une fois dans un trip un peu bizarre, mais soit. Qui s'y joue bon, donc juste une capitaine des ravageurs. On a aussi le personnage de Mind.
Juste pour couper, ça fait très. Ouais, vas-y, finis plutôt sur les persos du coup. Vas-y.
Oui, et donc on a encore Mindframe, une intelligence artificielle qui ici est interprétée par des images de synthèse, mais dont la voix est celle de Miley Cyrus.
Oui. Et juste ce que je voulais dire, c'est que cette réunion des ravageurs. Ça faisait très le dernier Pirates des Caraïbes quoi, tu vois, avec la réunion de tous les équipages de vaisseaux pirates qui sortent dans de ces zoos, et là ce côté putain les ravageurs qui s'unissent à la fin, puis ouais c'est quand même, enfin ça arrive sur la fin, tu sais, très un peu comme tu sais les Nova Corps là dans la fin du premier quoi.
Sauf que là on a plein de personnages, ce qu'il y a c'est que tous les capitaines ont des lignes de dialogue et ils ont tous un look très reconnaissable. Et on se dit introduire comme ça tout à la fin dans la dernière scène des personnages qui ont un visuel fort, tu vois, et qui parlent. Ils ont une idée derrière la tête et ça donne cette scène post-générique où Stallone Starhawk est réuni avec eux. Ah, il a fallu qu'on attende la mort de Yondu pour se réunir. On voulait qu'on fasse un nouveau casse et on comprend que c'est une ancienne équipe de braqueurs. Donc c'est les Expendables ou les Ocean's Eleven de l'univers Marvel finalement.
De toute façon, quand on voit Stallone au début du film dans le look, c'est dur de pas penser à Expendables quoi.
Oui, c'est
même franchement, on attend qu'une chose, c'est de le voir remonter sur une Harley Davidson quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Et donc on comprend c'est donc l'une des cinq scènes post-génériques du film, et on comprend que dans un des prochains films, on aura les gardiens, une itération des gardiens originaux, moins Von Sastrovic, Major Victory, donc le terrien qui se retrouve dans les comics dans l'an 3000. Et j'ai oublié un personnage qui apparaît aussi tout à la fin, il y a Krugar, un espèce de d'homme serpent rouge, qui fait des sorts à la Doctor Strange et qui, dans les gardiens de l'année 3000, est le sorcier suprême. Et qui, ici, sera donc un sorcier extraterrestre. Donc ça, pourquoi pas, hein, ça montre qu'il y a la magie partout.
Pour une fois que c'est pas Doctor Strange, hein, le sorcier suprême.
Voilà. Bon, ici, il n'est pas forcément sorcier suprême, mais il sera sorcier. Donc voilà, au niveau des personnages qui sont introduits, on peut noter aussi, comme caméo, Howard the Duck qui revient... avec la voix de Seth Green qu'on a connu comme Oz dans Buffy et qui est aussi derrière la série Robot Chicken. Ben Browder, alors rappelle-nous qui est Ben Browder, Jonathan.
Eh ben c'était celui qui jouait dans cette excellente série de SF Farscape.
Oui, et aussi qui a remplacé le général O'Neill comme personnage principal de Stargate dans les deux dernières saisons de Stargate.
Voilà.
qui joue ici un souverain amiral de...
Ouais, qui joue un peu le pauvre sous-fifre de la reine égomaniaque des souverains, là.
Tout à fait, oui.
Qui en prend plein la gueule pour pas un rond, quoi. Parce que après, la souveraine, elle met les mains dans le cambouis et ça, elle fait pas beaucoup plus, quoi.
Hein. Oui. Et on a encore dans les caméos, évidemment, Stan Lee. Qui a un caméo. Alors moi, j'ai trouvé ça intéressant. Toi, t'as pas aimé.
Non, moi, c'est les caméos de Stan Lee en général. J'en ai marre, quoi. Ah. J'en ai marre. Moi, qu'il fasse un AVC, qu'il le tue, mais ça suffit, quoi.
Bah, ici, il en fait deux. On le voit deux fois. On le voit parler avec des gardiens. Par contre, dans un espèce de scaphandre, ce qui laisserait entendre que soit lui-même est un gardien qui a pris forme humaine et qui est bloqué, en quelque sorte, cette forme humaine, soit un humain qui est employé par les gardiens. Et c'était une théorie qui circulait sur Internet depuis très longtemps. Et en fait, Kevin Feige s'est exprimé là-dessus. Il dit, ben voilà, c'était une théorie qui courait et lui et James Gunn ont bien aimé. Et donc, ils l'ont intégré au film. Alors, moi, j'ai bien aimé. Toi, je sais, bon, donc, bah, tu nous l'as dit.
Non, mais si ça peut nous faire un original sin. Moi, ça me va très bien. Hein. Moi, le plutôt sera le mieux d'ailleurs.
Et donc, toujours, et puis dans les caméos, on a Jeff Goldblum qui fait un caméo tant grand maître, un petit caméo dansant. On le voit danser dans le générique de fin et il interviendra donc dans Thor Ragnarok qui se passera dans l'espace. Une petite photo de Cosmo, le grand absent des films Gardiens. J'espère que dans le prochain Gardien, Cosmo aura enfin un rôle. Parce que...
Bah, de toute façon, avec la profusion de personnages qu'il y a, bon, est-ce qu'il y a encore de la place pour quelqu'un, on va dire, dans les gardiens,
oui.
Quoi, tu vois. Parce que si c'est introduire Cosmo juste pour qu'il soit sur la photo avec les gardiens, bon.
Bah, justement, là, tu ouvres la voie. Alors, à moins que tu veuilles encore parler du film en lui-même, si tu as encore des choses à dire.
Mais après, de toute façon, le scénario, il est cousu de fil blanc, quoi. C'est-à-dire que Peter se retrouve avec sa bande de bras cassés sur Ego. Ego lui expose son plan. Effectivement, bah, il veut, on va dire, se servir de Peter pour contrôler la galaxie, quoi. Grosso modo, en tout cas, conquérir tous les peuples, enfin toutes les planètes sur lesquelles il avait posé une germe, hein. Donc il veut vraiment coloniser l'ensemble de la galaxie par le biais de Peter.
Convertir la galaxie, c'est pas très clair tout à fait non plus.
Ouais, voilà. De toute façon, on a bien compris que c'est un grand méchant pas beau et que il veut dominer l'ensemble de la galaxie, quoi. Voilà. Et donc à côté de ça, on a toujours nos grands couillons d'hommes dorés qui essayent de poursuivre les gardiens pour se venger. Donc voilà, eux ils sont là, on les voit arriver, on les voit poursuivre en tout cas comment il s'appelle le vaisseau des ravageurs, enfin puisqu'on a Rocket et les on a parlé du mutinerie au niveau des ravageurs, mais c'est effectivement Yondu qui est fait prisonnier avec Rocket.
Et d'ailleurs, leur évasion qui est censée être discrète, au final, ils mettent de la musique, ils réveillent tout le monde.
Ah, ça aussi, quoi. Là, c'est vraiment, tu vois, dans les côtés, tu vois, je disais du film James Gunn qui se pose, qui regarde et qui se dit « Ah, ça, c'est quand même cool, le coup de la musique, quoi. » Alors,
oui,
ça a fait le succès du premier film, ça, je le nie pas, moi-même, ça m'a plu, il n'y a pas de problème. Mais quand t'as un personnage, ça, c'est la mise en abîme terrible. Enfin, pour moi, c'est hallucinant, quoi. Un perso Rocket, en l'occurrence, qui dit, ah, t'es, Yondu, au fait, t'as pas la cassette qui traîne, là, du père Quill, là, à diffuser? Si, aucun problème. On est juste prisonnier par une centaine de ravageurs, mais on a quand même le temps de démarrer la musique. Et puis, comme tu dis, c'est une discrétion à toute épreuve, hein.
Oui, ça, leur plan est un peu bizarre. Voilà. Et en parlant de musique, moi j'ai beaucoup aimé la sélection pour cet épisode-là. J'ai même préféré les musiques de ce film-là par rapport à celles du premier. Et il y a Tyler Bates qui est en charge de la musique orchestrale, on dira, qui reprend Tyler Bates qui était déjà sur le premier Gardien, qui reprend donc le thème principal des Gardiens, qui fait un boulot honnête. D'ailleurs, c'est un habitué des collaborations avec James Gunn. Il a collaboré notamment avec lui aussi sur Super, sur son segment dans Movie 43. On l'a aussi vu plusieurs fois aux côtés de Zack Snyder sur L'Armée des Morts, par exemple, ou sur 300 et sur Watchmen. On l'a vu également sur des films de Rob Zombie, sur les Halloween de Rob Zombie. Donc moi, j'ai bien aimé la musique en général.
Oui, non, mais après, moi j'ai peut-être moins préféré cette musique-là parce que je trouvais que le côté un peu groovy, un peu fun du premier, enfin, du premier était dû à cette bande originale qui me semblait plus voilà, peut-être plus, on va dire, disco du coup, mais et là c'était peut-être moins, je sais pas, moi j'ai moins aimé, ou alors c'est simplement le fait de l'avoir déjà vu dans le premier film qui
peut-être.
fait que. Mais
Toujours est-il que pour les films suivants, il y a un petit Deus Ex Machina qui va, ou un petit MacGuffin qui va permettre
ouais.
de diversifier la bande son.
Espérons-le. Je m'attends pas à du bon rock, mais sait-on jamais.
Oui, c'est vrai que ça manque quand même de rock, la bande son. C'est groovy, c'est soul, mais
Ouais, ça fait très putain. Allez, on va aller sur le dance floor, hein, là, tu sais, aller faire Saturday Night Night Live.
Il y a quelques musiques sympas quand même, mais bon, voilà. Et donc, sur le scénario, est-ce qu'on a fait le tour ou tu avais des choses sur
Non,
lesquelles
mais
toi tu avais envie
après
qu'on devrait
voilà,
revenir?
enfin,
Je
c'est
pense
voilà.
qu'on.
Non, après, il y a toujours, bon, je veux dire, le problème est réglé parce que Peter se découvre les problèmes, enfin les
Le
pouvoirs de
pouvoir, oui.
semi-dieu pour s'opposer à son père. Pendant ce temps, les autres membres des gardiens essayent de gagner du temps pour, enfin, essayent plutôt de détruire la conscience d'ego, puisque c'est finalement, alors c'est là un peu quel problème que j'ai avec Ego, c'est que d'un côté il est omniscient et puis de l'autre côté, si tu veux, il y a sa conscience qui est totalement mise de côté entre guillemets et qui est facilement atteignable quoi. Il suffit de l'occuper si tu veux.
Oui.
Tu vois, c'est
Oui, bon.
je comprends pas ce manque de liaison quoi dans le perso
Bon.
quoi. C'est pour le coup c'est finalement un dieu qui paraît assez faible quoi. Tu vois, c'est.
Oui, bah comme toujours, le problème des personnages trop puissants, c'est qu'au final, on trouve des astuces pour les battre, quitte à baisser leur pouvoir de manière illogique. Bon, c'est ce qui m'aura gêné aussi, ça, et le trop d'humour, et le problème, le manque un peu d'ampleur du scénario, qui, on le sent, est bridé par le fait que, il faut pas en mettre trop parce qu'il y a des suites, non pas une mais plusieurs suites. On parle quand même d'un gardien 3 voire d'un gardien 4 et on sait que certains éléments cosmiques se verront dans d'autres films, dans Doctor Strange peut-être et surtout dans Avengers 3 voire Avengers 4. Vu qu'on sait que Avengers 3 sera Avengers Infinity War, le 4, on sait pas si. Alors, ce sera une suite d'Infinity War. Alors, est-ce que ce sera Infinity War en deux parties? Est-ce que ce sera une suite? Est-ce qu'on ne sait pas? Il y a le film Captain Marvel entre les deux qui prendra du cosmique. Et donc, il bloque certaines choses, notamment Thanos. On sent que Gamora et Nebula, elles veulent en découdre avec Thanos, sauf que Thanos, il est réservé pour les films Avengers. Alors,
C'est ça.
est-ce que dans les films Avengers, on aura une petite place pour Gamora et Nebula? Est-ce que, comme moi je le pense, peut-être qu'à la fin des films Avengers, vu que Gardien 3 sera après Avengers 4, a priori, est-ce que bah, au final Thanos ne mourra pas? Peut-être qu'il perdra juste face aux Avengers et Thanos sera affaibli et à ce moment-là, elles régleront leur compte avec lui. On ne sait pas, on peut spéculer sur ça, mais toujours est-il qu'on sent bien que Thanos, il est gardé pour les Avengers et ça va faire maintenant presque 10 ans que ça dure. Enfin non, ça fait 5 ans, depuis 2012 que ça dure.
Ben c'est toujours Thanos le grand méchant qui est en fond, mais que finalement voilà, alors on a jamais vu vraiment vu, c'est-à-dire qu'on l'a même carrément pas développé. Le problème c'est que Thanos qui est effectivement teasé à la fin d'Avengers, ça c'est quand même génial, il y a pas de problème. Mais qu'il soit pas totalement, enfin qu'il soit pas l'antagoniste principal dans Les Gardiens de la Galaxie, pourquoi pas? Qu'il soit en fond et qu'il
Comme dans le 1, où il était en
comme dans
fond,
le voilà
sur
ça.
son petit fauteuil là.
Ouais. Il doit avoir des rhumatismes, c'est pour ça. Il doit rester dans le fauteuil. Mais ça c'est bien. Mais si tu veux, finalement, on se retrouve à arriver sur Infinite War, donc l'an prochain. Et finalement, Thanos, ben, il aura vraiment pas beaucoup été développé, quoi. Et tout ce qui est la quête des gemmes de l'infini, finalement, t'as plus l'impression que Thanos a été battu à différents stades dans cette quête-là, qu'autre chose, quoi. Tu vois.
D'ailleurs, la pierre de l'âme, qui est la sixième pierre, toujours portée disparue, aucune mention pour l'instant.
Aucune mention, la pierre du pouvoir, enfin la pierre de, alors je sais plus si c'est la pierre du pouvoir ou
Oui, celle dans Gardien 1, c'était la pierre du pouvoir.
elle est avec le Nova Corp.
Voilà.
Donc
Oui,
ensuite t'as la, comment t'appelles ça, la
les Asgardiens qui ont une ou deux pierres.
qui ont une ou deux pierres, ouais je crois, avec le cube, non, il me semble.
Alors le cube, c'est une des pierres, c'est l'espace, il me semble, je crois, à moins que ce soit la réalité, j'ai un gros doute maintenant. Oui, alors celle du temps, c'est le Docteur Strange qui l'a, comme on a pu le
Voilà.
voir dans dans le précédent Doctor Strange.
Il y a l'éther, la pierre, la pierre rouge. Alors j'ai plus le.
L'éther qui est, je crois que ça c'est censé être la gemme de la réalité, qui est aussi détenue par les Asgardiens, si je dis pas de bêtises. Là, je fais ça de tête.
Ben, ils avaient créé Ultron avec la pierre qui était contenue dans.
Ah, attends, la pierre de l'âme, c'est pas Vision qu'il a sur lui.
Ah ben oui, du coup ça me ah mais non je sais pas je
non c'est la pierre de l'esprit, c'est celle de l'esprit que
voilà,
Vision,
je pense que c'est ça.
Vision, c'est la pierre de l'esprit. Alors il y a des rumeurs comme quoi la pierre de l'âme serait peut-être, alors qui sait, serait peut-être dans Mjolnir, et vu qu'on sait que Mjolnir sera détruit dans Thor Ragnarok, ce qui explique aussi pourquoi Mjolnir
pas.
Ah mince, dans la bande annonce, bon, c'est dans la bande annonce, désolé.
Voilà, bravo Marty. Après Power Ranger, voilà, très très bien. Encore une fois.
Oui, enfin, on peut supposer que peut-être, c'est peut-être pour ça que les gens, là, c'est supposition maison, que les gens peuvent tenir le marteau. Bon, désolé pour tous ceux que j'ai spoilé qui n'avaient pas vu la bande-annonce de Thor 3.
Oui,
on mettra un petit disclaimer dans le.
On vous dira, si vous voulez éviter la fantasy Marty du podcast, hein, on verra comment sauter.
Ça va, hein, je fais une supposition par rapport à une image que l'on voit dans une bande-annonce diffusée il y a un mois. C'est bon.
Oui, mais podcast,
bon, on va pas épiloguer là-dessus. Hein. Trouverait-il que au final Thanos s'est bloqué? Mais alors, qu'est-ce qui nous attend dans Gardien 3?
Bah, dans Gardien 3, bah déjà
Bon, les gardiens, on sait qu'ils apparaîtront dans Avengers 3, soit Avengers 4. Zoé Parce Saldana que... l'a spoilé, mais on n'en saura pas plus.
C'est plutôt, c'était prévu pour Avengers 4, hein. Ce qui laissait supposer qu'effectivement Avengers 4 serait un peu la guerre, le gant de l'infini, quoi. Alors, est-ce que ça laisse du coup Infinite War comme finalement
la quête
des gemmes? Alors, quitte à finir finalement, ce qui serait une première, hein, quitte à finir un film Marvel sur le grand méchant qui gagne, quoi. Ce qui serait une première. Est-ce qu'ils vont nous faire l'Empire contre-attaque sur ce Marvel? Quoique la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était qu'ils nous ont teasé un truc comme ça. Ils nous avaient dit que c'était pour quel film? Pour Civil War qu'ils voulaient faire ça devait être ça, l'Empire contre-attaque de.
Oui. Alors je sais que toi, Civil War, c'est pas ton préféré.
Le film en lui-même, bon, il est pas déplaisant. Enfin voilà, mais c'est quand même, si tu veux, c'est toujours pareil. C'est comme les films Marvel, quoi. T'en retiens rien, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil. Ils commencent le film pote et ils finissent pote à la fin. Donc bon. Mais là, bon, comment va s'orchestrer un peu cette guerre du gant de l'infini? Parce que justement, alors là, tu parles des gardiens 3. Du coup, la fin de l'une des scènes post-génériques des gardiens 2, c'est effectivement la mention d'Adam Warlock.
Tout à fait. Donc créé par Ayesha, qui dans les comics est lié à Adam Warlock.
Voilà.
Et d'où le fait que Adam Warlock, une créature avec un humain avec la peau dorée, ben ça, on en vient totalement au souverain. Adam Warlock, qui est créé par des scientifiques au début dans l'univers Marvel. Oui. Enfin, on va pas encore une origine à tirer par les cheveux. Hein. Des scientifiques au début de l'univers Marvel qui créent sans le faire exprès l'être le plus puissant de l'univers. Voilà.
Bon. Mais c'est pas, de toute façon, Adam Warlock dans les comics, c'est pas pour sa genèse qu'on le retient,
non.
C'est pour tout ce qui a été écrit après. Donc à la limite, si tu veux qu'il soit créé par des humains ou les souverains, pourquoi pas. C'est juste que le fait que on l'introduise comme ça en nous l'utilisant pour Gardien 3, c'est un peu gênant parce que on ne peut s'empêcher de penser qu'il eût été préférable d'avoir Adam Warlock pour justement le film qui est censé représenter la guerre contre le gant de l'infini, quoi.
Oui, surtout que Adam Warlock est lié à la gemme,
de l'âme. Et oui.
Gardien 3 sortira après Avengers 4, James Gunn a dit que pour lui, qu'en théorie, ce sera pas même ça sort après. On a déjà vu que les films Marvel ne se passent pas forcément dans la chronologie, dans l'ordre où ils sortent. Ça se passera aussi après Avengers 4. Donc, peut-être que on aura quand même la gemme de l'âme. Hein. Peut-être que Thanos perdra les gemmes à la fin d'Avengers 4 et que Adam Warlock la récupérera. Peut-être qu'il n'y aura aucun rapport avec la gemme de l'âme et puis c'est tout. On verra.
Ouais. Ouais, c'est... Faut voir. Parce que le problème, si tu veux, c'est que... j'en reviens, si tu veux, au côté, notamment, comment dire, la relation entre Peter et Ego, c'est que finalement se priver d'Adam Warlock pour être un opposant, être un antagoniste à Thanos, c'est finalement se priver de tout le côté ésotérique un peu que peut avoir l'univers cosmique Marvel, quoi. Le côté un peu justement qui va un peu au-delà simplement du pim pam boum, on va se mettre des mandales dans la gueule. Là, si tu veux, ça me fait très peur que finalement Thanos, finalement, ce soit juste une grosse baston avec les Avengers et les Gardiens de la Galaxie contre lui, quoi, et que ça se foute sur la gueule.
Comme tous les fins de films Marvel, voilà, où on se met sur la gueule avec le méchant.
Ou que on nous fasse le fast coup de, en fait, non, c'est Tony Stark qui joue le rôle, carrément le rôle d'Adam Warlock, quoi, tu vois. Comme comme il a créé finalement, comme c'était Tony Stark qui crée Ultron. Et par extension Vision, et ben dans le Marvel Cinematic Universe, et ben du coup c'est assez Tony Stark qui va sauver la mise à tout le monde dans le Avengers 4. Ça me gêne un peu, quoi. Ça me gêne un peu quand même.
On verra.
Parce que voilà, ça simplifie, si tu veux, ça simplifie énormément, excessivement cet univers Marvel au ciné, quoi.
Bon, après ça, on peut pas non plus faire comme dans les comics où on a pendant des années plusieurs épisodes qui sortent par mois. Faut condenser, faut simplifier.
Oui, mais
moi, y a des simplifications, tu vois, qui me plaisent. Hein. On voit des personnages qui ont été créés de manière empirique, comme Adam Warlock ou même Thanos, qui ont des origines ou même Star-Lord, qui ont des origines qui ont été remaniées pour les simplifier. Ben, au cinéma, finalement, on prend ce qu'il y a de plus simple à adapter ou ce qu'il y a de plus sympa aussi. Donc moi ça me dérangera pas.
Moi je sais pas, moi si tu veux ça me fait l'effet que plus les films passent et plus si tu veux je me rends compte que je ne suis plus le public pour ça, quoi. Ou pire que ça, que Marvel au cinéma, Kevin Feige et sa bande ne veulent pas que je sois ce public là, quoi, tu vois.
Oui, toujours la grande question, est-ce qu'ils visent les fans de comics, est-ce qu'ils
alors,
visent les
moi,
gens
je suis pas,
en général.
Si tu veux, moi je suis pas un dogmatique et me dire bon voilà puisque le film finalement ne reprend pas les éléments que moi j'aimais dans les comics, forcément ça va être mauvais, ou forcément on essaye de tu vois de me la faire à l'envers. Je comprends bien, et je l'ai vu dans la salle de cinéma. Il y avait à côté de moi un père qui était avec son petit garçon, qui ont adoré le moment, et je comprends bien que ce film là pour eux ça leur parle, mais voilà, j'aimerais qu'on puisse trouver plus, enfin qu'on trouve un juste milieu, quoi, un juste milieu qui je trouve n'existe pas pour l'instant, quoi. Je trouve que
c'est une question de sensibilité après, hein, chacun.
Oui,
moi, ce que j'aime dans ces gardiens, c'est que au final le roster c'est plutôt celui de la période Bendis. Ils ont pioché pas mal d'éléments de la période Arnett et Lanning, mais en même temps, James Gunn a aussi su créer ses gardiens. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais il a su créer son ambiance à lui, qui se démarque même dans l'univers cinéma de Marvel. Et c'est pour ça, je l'applaudis. Après, moi, ça va, j'aime bien. Au final, j'aime bien ce que nous propose James Gunn. J'ai passé un bon moment. Pour moi, c'est avant tout du divertissement. Ça me transporte pas comme peut nous transporter les œuvres comme l'Empire contre-attaque, si on veut citer les gros noms. Hein. Mais le contrat était réussi par rapport à ce que j'attendais. Même si j'aimerais pouvoir attendre plus, c'est bien ça le problème aussi. C'est que vu la qualité d'une bonne partie des films Marvel récents, c'est que mes attentes sont en baisse.
Ah, globalement, je veux dire, quand je vois un film Marvel, je n'attends plus rien, quoi, globalement. Mais ça fait très longtemps, mais on a quand même des surprises de temps en temps, quoi. J'avoue que le Doctor Strange, par exemple, pour moi, ça avait été une bonne surprise, quoi.
Pareil, une bonne surprise, mais absolument pas la révolution que tout le monde clamait.
Pas la révolution, mais une bonne surprise, mais paradoxalement, une bonne surprise du, j'ai envie de dire, puisque, sauf à quelques éléments... C'est presque un film qui était pas dans la continuité du Marvel Cinematic Universe, quoi. Tu vois, ça faisait presque le fait d'un standalone, quoi, d'un univers à lui, tu vois.
Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Hein. De toute façon, il faut que les films soient bons aussi pris individuellement. Et c'est aussi ça le risque avec le prochain Avengers où l'histoire sera peut-être sur deux films. C'est que les films ne seront plus des histoires avec un début et une fin propre. Déjà que comme ça, l'univers partagé bouffe souvent les films. Et là, Gardien de la Galaxie 2 arrive à ne pas se faire bouffer comme a pu se faire bouffer, par exemple, Iron Man 2 à l'époque, qui était plus un Avengers 0 qu'un Iron Man 2, sans compte que l'histoire était nulle. Et il arrive à avoir sa propre identité. J'espère que James Gunn arrivera à faire ça. D'ailleurs, pour les Gardiens 3, James Gunn dit que pour lui, ce sera la fin de cette itération des Gardiens, et que lui, ce qu'il aimerait faire, c'est qu'à partir des Gardiens 4, changer le cast, en partie ou entièrement. Même si ça m'étonnerait que Marvel Studios le laisse faire ça. Les gens sont trop attachés à Groot, à Drax, à Rocket Raccoon. Mais on verra. Enfin, on verra. S'il peut le faire, ce serait pas mal.
Après, je veux dire, il lui faudra quand même une tête d'affiche, quoi, tu vois, pour incarner...
Peut-être, qui sait, peut-être Stallone, peut-être l'équipe de Stallone, mais...
Ah, ça, j'y crois pas, tu sais, parce qu'après, il y a quand même les codes d'Hollywood, et tu sais que, surtout dans ces films-là, t'as quand même besoin d'une tête d'affiche un peu trentenaire, un peu beau garçon, tu vois.
Qui sait, peut-être un mélange. Moi, je vois bien dans les Gardiens 4 un mélange entre les deux équipes, ou peut-être ils introduiront peut-être un nouveau personnage. Pourquoi pas Von Sastrovic, pourquoi pas?
Oui, ou pourquoi pas
un acteur qui entre dans le jeu.
Ou pourquoi pas Tony Stark, hein? Allez, Tony Stark dans les Gardiens. Non, mais par contre, il y a Captain Marvel qui vont amener dans pas longtemps.
Donc 2018 ou 2019.
On sait que Captain Marvel, il me semble, dans les des comics, ça a eu des relations plus que poussées avec les Gardiens. Bon,
récemment, Bendis l'a inséré de manière forcée pour rien en faire et vite la dégager.
Voilà, donc est-ce qu'ils vont pas carrément franchir le pas et
bon, pourquoi pas.
Voilà, et se dire bon, ben là, on va carrément faire, si tu veux, des Gardiens avec finalement une leader féminine à sa tête, quoi, tu vois.
Bon. Pourquoi pas? Moi, ça me plairait bien. Pourquoi pas?
Écoute, bon, Brie Larson est une excellente actrice, mais pourquoi?
On verra. On verra. Et aussi, on peut peut-être parier sur un retour du collectionneur.
Oui,
interprété par Benicio del Toro.
Oui, parce que lui, c'est vraiment... Bon, on le voit dans le premier Gardien, et en fait, on nous fait comprendre qu'on le reverra dans les prochains films. Mais alors, lui, c'est comme Thanos, du coup...
Dans ce film-là, il s'insérait pas du tout. Et l'acteur a déclaré qu'il aimerait refaire le personnage, et James Gunn n'est pas contre. Donc, et comme on introduit aussi son frère dans Thor Ragnarok, peut-être que Gardien 3 ou 4 sera centré autour des Elders of the Universe, les doyens de l'univers, il me semble, en français. Donc c'est une piste qui est ouverte. Tout, on verra. En tout cas, toujours est-il que du Gardien, on va encore en manger pour un moment, vu que Marvel est bien parti pour faire une phase 4 après la phase 3. Et d'où aussi peut-être cette idée de renouvellement. Rappelez-vous qu'on a plein de rumeurs de renouvellement d'un nouveau Captain America, peut-être d'un nouvel Iron Man, tout du moins d'Avengers avec des nouveaux membres.
Ah, donc peut-être qu'on va avoir d'ailleurs un Captain America sauce Secret Empire, ce qui serait phénoménal.
Mais j'adorerais Secret Empire, que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc le fait que plutôt de faire des reboots, on continue puis on pioche, quitte à remplacer les acteurs par d'autres personnages plutôt que plutôt soit de faire un reboot, soit de faire un changement d'acteur pour le même personnage. Moi, je suis pour, tant que les histoires qui suivent sont bonnes. En tout cas, l'avenir pour les Gardiens n'est pas encore clos du tout.
Ça dépendra aussi, voilà, de, comme tu dis, de qu'est-ce que voudra faire James Gunn.
Qu'est-ce qu'on le laissera faire aussi.
Est-ce qu'on le laissera faire? Est-ce que Marvel continuera avec James Gunn? Parce que peut-être aussi que les grandes pompes de Marvel vont se dire, écoute, il a fait sa trilogie, il y a eu ce thème-là, peut-être que ce que nous on veut faire sur la prochaine trilogie des Gardiens, c'est un truc qui soit bien différent, quoi. Donc. Ouais.
Regarde, Jon Favreau, qui a été donné pour réaliser Avengers et continuer sur Iron Man, finalement, ne le fait plus, mais il est resté quand même en bon terme vu qu'il joue encore dans les films. Joss Whedon, qu'on le voyait comme grand architecte à la télé comme au ciné, non. Finalement, il va vivre sa vie ailleurs, et c'est très bien aussi.
Et il va donc, faire Bad Girl.
Voilà, il va sans doute faire Bad Girl, donc tout est possible. Tout est envisageable, on verra. Toujours est-il que, j'avais avant de t'oublier de le dire, quand même, James Gunn puise ses idées aussi dans les comics, parce que cette idée que Ego mange des personnes vient en fait de Fantastic Four 2235, dans un même épisode où Ben Grimm plonge au cœur de Ego pour le faire exploser. Comme quoi, au final, Gardien reste quand même un film qui ne renie pas du tout les comics et s'inspire, emprunte beaucoup, beaucoup d'idées. Et ce n'est pas pour me déplaire.
Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du box-office, parce qu'on peut-être parler des chiffres aussi...
Oui, et aussi un petit mot sur les effets spéciaux aussi, avant de finir.
Oui, oui, oui. Et donc, au niveau du box-office, pour l'instant, les Gardiens sont à 453 millions de dollars de recettes. Mmh. Donc, ce qui est plutôt un score, ouais, correct, même plus que correct. Alors, par contre, ça n'atteint pas les sommets assez invraisemblables de Fast and Furious 8, qui est quand même à plus de 1 milliard. Hein, c'est,
ah oui, quand même. Alors, moi, je n'ai jamais vu un seul Fast and Furious. J'ai vu des parodies de Fast and Furious, les parodies de Mosinor, ou même une parodie alsacienne de Fast and Furious, mais j'ai jamais vu Fast and Furious.
Ah, c'est vraiment particulier. Je pense que le terme, c'est vraiment, il faut le voir pour le croire, quoi.
Je me dis qu'un jour, je testerai soit le tout premier, soit les derniers qui sont les films d'action, ne serait-ce que pour ma culture ciné.
Bah, si je dois être un minimum objectif et sympa sur cette franchise décérébrée, je pense qu'il faut regarder à partir. Tu peux regarder le 1 et après ouais le on va dire saute le 2, le 3, le 4 encore ça va, mais après c'est vraiment à partir du 5 quand ils introduisent le personnage du Rock.
Oui, que ça devient une nouvelle saga, oui.
Ouais, ça devient une nouvelle saga. Et puis avant, tu sais, Fast and Furious, ça avait un peu le côté
tuning.
Ouais, mais c'est un peu film de quartier, quoi. Alors on a vraiment l'impression d'être un gros blockbuster.
C'était du taxi à l'américaine, et finalement, maintenant, ça devient un film d'action où il y a des bagnoles, mais les bagnoles ne sont plus le seul intérêt pour aller voir le film.
C'est ça. Donc les gardiens, ils sont donc à près de 454. Alors
pour un budget de 200 millions. Donc,
pour un budget de 200 millions. Alors la sortie, quand même, il faut préciser que c'est une sortie qui a été faite le 5 mai. Je pense le 5 mai, c'était aux États-Unis vendredi dernier. Alors nous, il est sorti en avance, hein, comme ils font d'habitude. Un peu, c'est la technique Marvel. Hein, on sort les films en avance pour faire monter la hype, quoi. Et souvent, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est l'inverse finalement qui ne marche pas.
Déjà qu'il y a un décalage, là-bas les films sortent le vendredi ou le mercredi, là en général ils le sortent même la semaine d'avant pour qu'il y ait 10 jours entre les deux sorties, et comme ça on fait monter la pression.
Donc c'est plutôt un bon score, hein, globalement. Par contre, c'est vrai que ce qu'il faut préciser, c'est que les gardiens, comme c'est pas, c'est vrai qu'il y a eu le premier, mais c'est pas non plus une franchise qui sur le papier va peut-être autant attirer le public que Avengers.
La bonne surprise du premier, ouais. Il faut espérer que, enfin, comme ils reprennent trop les mêmes formules, ça peut reprendre ou pas du tout.
Mais c'est quand même un démarrage. Bon, ça va, c'est pas un flop, quoi. C'est pas un flop. Ce qui d'un côté fait, enfin. Pour moi qui ai un avis mitigé sur le film, ça devrait pas me plaire, parce que justement ça va pas obliger Marvel, si tu veux, à repenser un peu son produit et à revenir vers quelque chose de plus scénaristiquement travaillé, parce que là globalement faut pas se mentir, c'est vraiment très fainéant, quoi, comme scénario. C'est du gardien 1.5, il y a aucune évolution de personnage.
Bon, c'est mieux que Thor 2 ou qu'Iron Man 2 quand même, objectivement.
Complètement, mais c'est vrai que on s'est pas trop foulé, quoi.
Et c'est très joli, moi je trouve. Enfin, les effets spéciaux, moi j'ai bien aimé, sauf quelques fonds verts qui sont très visibles, notamment vers la fin. Il y a quelques fonds verts qui m'ont un peu piqué les yeux, mais sinon je trouve que les 200 millions étaient bien investis. Moi j'aime beaucoup visuellement, et visuellement les gardiens ont une identité très belle. C'est un peu flashy, mais c'est à l'instar de Star Wars et son futur usé, ou de Star Trek et son futur brillant. Là, c'est un futur flashy avec des néons qui collent bien, bon, à la bande son et à l'ambiance, et c'est parfaitement réussi. Et ça donne une identité forte au film qui le sert beaucoup.
Ouais, je te rejoins assez au niveau comment dire, au niveau effets spéciaux, au niveau univers en lui-même, l'univers qui est créé, il est quand même beau, quoi. Ça c'est clair. Évidemment, hein, il y a des choses ici ou là qui choquent un peu, mais je veux dire, s'il y a quelques années, on nous aurait dit on va essayer d'adapter le Cosmic Universe Marvel. Sincèrement, on se serait dit putain, et bon courage, quoi, tu vois. Donc
surtout après avoir vu Green Lantern, hein, désolé de le réévoquer, mais quand j'ai vu Green Lantern, je me suis dit si c'est ça le cosmique des comics au cinéma, on est mal barré, hein.
Bah, le problème de Green Lantern, enfin, juste pour finir la parenthèse, c'est que non seulement, si tu veux, visuellement c'est raté, Mais et c'est surtout scénaristiquement, quoi, tu vois. Moi, je suis prêt, si tu veux, c'est ce que je voulais dire sur Gardien. Je suis prêt, si tu veux, à faire, à passer sur les quelques erreurs au niveau des effets visuels ou des effets spéciaux, quelques fonds verts, si derrière le scénario est solide, quoi, tu vois. Je suis pas dogmatique là-dessus, quoi. Ça me choque pas, quoi. Je comprends qu'il y a des choses qu'on peut pas tout faire. Par contre, scénaristiquement, là, je pense quand même que ça demande qu'un papier et un crayon pour améliorer tout ça. Et là, franchement, non. Enfin, on se fout pas trop, quoi. Puis on prend quelques raccourcis. On en a pas trop. Finalement, on l'a pas trop parlé. Enfin, si, tu en as parlé, mais la relation Yondu Peter, cette espèce de relation père-fils. Ouais. Enfin, c'est. Finalement, il était le père que j'ai toujours cherché. Il était là devant moi. Et puis il part. Tu vois, il part juste quand je commence à le connaître. Bon. Voilà.
Ouais. Donc, alors, si on peut faire, alors juste avant de faire le bilan, je voulais encore parler de deux caméos. Alors, un caméo qui, à l'instar des voix de Bradley Cooper ou de Miley Cyrus, un caméo qu'on ne peut entendre que en VO, c'est celui de Rob Zombie qui joue à nouveau la voix d'un ravageur. Alors, je crois qu'il apparaît même en tant que ravageur maquillé, je ne suis pas exactement sûr. Et on a un tout dernier caméo qui, moi, m'a bien fait rire. C'est celui de David Hasselhoff, qui apparaît une première fois dans le film rapidement, Ego prend son apparence, et tout à la fin, il apparaît pour nous dire un petit message, n'oublions pas, c'est en troublé que nous sommes tous des groutes. David Hasselhoff d'ailleurs, qui est appelé Zardou Hasselfrau en anglais. Alors Hasselfrau, je crois que ça veut dire quelque chose comme Madame Noix quand même en allemand, et qui devient en français Zardou Bogdanov.
Oui, ça c'est le côté tout francisé qui est un peu exactement, si tu veux, comme on a vu dans le Captain America Winter Soldier.
Oui, où avec je crois que ça coluche à Louis de Funès sur sa liste des choses à voir.
Et il me semble, peut-être j'hallucine, mais il me semble qu'il y avait même Dragon Ball Z.
Peut-être, oui.
Mais enfin, peu importe.
Peut être en VO aussi, vu qu'ils ont découvert Dragon Ball Z depuis 15 ans aux États-Unis.
Et mais que voilà, c'est ce côté-là, toujours, franciser la chose, quoi. Enfin, c'est. Non, enfin, tant pis s'ils comprennent pas la référence.
Non, surtout que là, il s'agissait juste d'avoir une personne qui prononce mal son nom, c'est tout. C'était une petite blague rajoutée, mais bon. À l'instar du jeu s'appelle Groot, en VO, il dit juste I am Groot, et en français, on a rajouté une petite faute pour faire mignon. Groot qui, comme je l'espérais, apparaît d'ailleurs comme un ado à la fin. Merci, on n'aura pas du bébé Groot dans tous les prochains films. Et ça m'a bien fait marrer de voir Groot qui fait sa crise d'adolescence.
De l'ado Groot, je sais pas si on y gagne au change non plus, hein.
Tant qu'il reste, s'il reste en ado Groot tout le prochain film, bon, on verra ce qu'ils en font, mais au moins, même si bébé Groot il est bien sympathique, on va pas avoir que du bébé Groot, et ça, c'est pas mal. Alors, ta note, Jonathan, la note globale.
Honnêtement, moi je mettrais un 4,5 sur 10.
Ah ouais. Ah non, moi je serais plus généreux, hein. Moi ce serait quand même du 6,5 voire 7 sur 10. Ouais, je suis très généreux, du 1 à voir, alors pas forcément à revoir. Donc c'est le genre de film, dans quelques années ça me déplaira pas de le revoir, mais c'est pas comme par exemple le premier Iron Man ou Avengers que je revois toujours avec beaucoup de plaisir. Là je l'ai vu, je suis pas mécontent de l'avoir vu au ciné du tout. Malgré ses défauts, j'ai passé un bon moment. Il remplit le contrat. Voilà, film qui remplit le contrat. J'espère qu'ils se renouvelleront par contre pour le troisième, parce que nous servir la même soupe trois fois, j'aurais du mal.
Ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi. Si vraiment, c'est un peu le même constat que je fais pour la franchise Avengers après Age of Ultron, quoi, en fait. Mm-hmm. Si on nous resserre la même chose pour Infinite War, bon, normalement non, mais là oui, ça commencera à faire beaucoup, quoi. Ça commencera vraiment à faire beaucoup. Bon, cela dit, si ils introduisent Gong Li dans le film, qu'elle joue un rôle, même un pot de fleurs, le film sera génial, hein, évidemment. Hein, donc, en toute objectivité, hein.
D'accord. Donc, bon, je pense qu'on peut achever cette émission dès à présent, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter.
Non.
Donc, c'était un Comic City spécial consacré au Gardien de la Galaxie volume 2. On se retrouve très prochainement sur le site, que ce soit pour nos émissions habituelles, le Comics Weekly qui chaque semaine revient sur les sorties VO en comics, le Comic City qui chaque mois revient sur les sorties VF de comics. On vous prépare d'autres spéciaux sur les films. Il y a plusieurs films Marvel ou DC qui arrivent sur nos écrans très prochainement. Un film avec beaucoup plus d'action sur Terre bientôt, qui sera très guerrier, il me semble, le mois prochain, n'est-ce pas, Jonathan ?
Oui. Avec une actrice qui remplit bien le costume.
Donc, nous aurons Wonder Woman le mois prochain et Spider-Man en juillet. Donc, des films Wonder Woman qui est attendu au tournant. Hein. Premier film déjà sur Wonder Woman, grande icône. Premier film de super-héros d'envergure avec une héroïne dans le rôle-titre. Bon, à part le Catwoman horrible d'il y a quelques années. Et Elektra, on peut pas dire que c'était une héroïne d'envergure non plus.
Et
Spider-Man...
Puis, et puis, premier film après BVS.
Et qui prépare Justice League.
Et surtout, en fin d'année. À voir s'il y a effectivement un réel changement de ton par rapport à BVS, est-ce que...
Voilà, et un film d'époque aussi. Depuis Captain America, on n'a pas eu le premier du nom, on n'a pas eu de film d'époque. Là, ce sera la Première Guerre mondiale.
Enfin, je dis une bêtise, il y avait Suicide Squad aussi. Oui. Mais on aurait préféré l'oublier.
Non, on l'oublie celui-là. Donc ouais. Voilà, et puis en juillet, Spider-Man. Vous connaissez l'amour de Bunny pour Spider-Man. Moi, j'adore Spider-Man. Jonathan, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi.
Sauf quand il est marié à Mary Jane, sincèrement, c'est une tête à claque. Hein,
Donc voilà, on a entre autres ces films-là, d'autres films encore à venir. Bref, on vous prépare des spéciaux. Restez à l'écoute. Vous pouvez évidemment retrouver...
Vous pouvez écouter le podcast aussi. Hein,
le podcast, j'allais y venir. J'étais en train de faire toutes les sorties comics. Et donc, le podcast avec Jonathan, Bunny et Steve, chaque premier dimanche du mois.
Ah non, c'est avec Steve, Mr. René Bunny et Jonathan du podcast.
Ah, excuse-moi. Donc voilà, tous nos podcasts, les Rock City aussi, où les à Rock peu City, près chaque ouais. mois, Steve nous parle de rock. Bref, vous pouvez nous retrouver nos podcasts.
Et sur le site
podcasts.
Avec les top et flop de Sam.
Oui, alors le top et flop du mois de Sam, ou ses guides de lecture chaque des sorties VO et VF de chaque semaine. Vous pouvez nous écrire à podcast@comiccity.fr pour vos mails qui seront lus si vous le voulez lors des émissions live. Retrouvez tous les articles sur le site, les podcasts que vous pouvez retrouver sur notre site ou sur iTunes. Retrouvez aussi notre site sur Facebook où j'essaie de relayer les news et aussi les sorties des podcasts. Et vous retrouvez encore sur Twitter. Voilà.
Et vous pouvez nous écouter aussi sur Pod Radio.
Et sur Pod Radio, on l'oublie souvent. J'espère que c'est bon, que je n'ai rien oublié, que je ne me ferai pas taper sur les doigts par le taulier. C'était donc Marty pour sa toute première et peut-être dernière, on ne sait pas, présentation, accompagné de Jonathan du podcast. À la prochaine, portez-vous bien, lisez plein de comics et allez voir leurs films si ça vous dit.
Salut à tous.
Ciao.